bonjour, bonjour dans ce nouveau numéro de Monnaie Libre. Eh bien, je reçois aujourd'hui Pierre Noisa. Salut Pierre.
Bonjour Stéphane.
Alors Pierre, spécialiste en France du Bitcoin, hein, parce que tu travailles dessus depuis quelques années déjà.
Oui, absolument, depuis au moins 2011.
Oui, au moins 2011, et donc tu développes des outils de facilitation de paiement autour de cette monnaie qui donc défraie la chronique depuis 2008 au moins. On va revenir dans ce podcast sur la genèse du Bitcoin et puis aussi sur son état actuel, parce que ça c'est aussi important, et d'essayer de comprendre aussi comment cette valeur, moi je dirais, mais sur ceux qui l'adoptent vont l'appeler monnaie. C'est une monnaie d'ailleurs, mais moi je la dirais non libre, d'autres le diront, mais si elle est libre, peu importe, on verra ces points d'alerte en troisième partie. Mais d'abord, on va s'intéresser quand même à cette chose-là, le Bitcoin qui existe, qui est valorisé, qui est échangé, qui développe son propre modèle économique et sa propre économie, et tout d'abord sur sa genèse. Alors, sa genèse, elle part aussi, outre son aspect technique qui est tout à fait extraordinaire, sur cet aspect technique, purement technique, il est extraordinairement bien pensé, bien fait, bien réalisé. Il est bien fondé d'un point de vue mathématique et informatique. Il a tout à fait bourré de qualité de ce point de vue-là, d'un point de vue purement technique. Mais on va s'intéresser aussi à sa pertinence par rapport à la critique, bien sûr, du système monétaire officiel qu'on se traîne depuis 40 ans, qui est un système monétaire à réserve fractionnaire. Hein. Alors, est-ce que les tenants du Bitcoin les développeurs ou ceux qui maintiennent aussi, bien sûr, mais les utilisateurs aussi, ne voient pas dans le Bitcoin, justement, une critique du système officiel, et comment on peut critiquer d'abord, dans un premier temps, ce système officiel?
Oui, comme tu le dis, Stéphane, le système traditionnel qu'on utilise aujourd'hui, d'abord, il nous est imposé. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat démocratique sur le fonctionnement de ce système. Il nous est imposé à tous. C'est-à-dire que nos élus eux-mêmes ont un compte en banque en euros et donc utilisent ce système. Ils n'ont pas de choix d'alternative. Ça, c'était vrai, on peut dire, jusqu'à récemment, hormis quelques initiatives de monnaie dite locale, qui en fait sont un peu des clones du système des banques centrales, sauf que c'est à l'échelle locale. C'est-à-dire au lieu d'avoir une banque centrale au niveau européen, on a une banque centrale au niveau d'un village ou d'une collectivité territoriale. Donc on avait le choix entre un système monopolistique et puis quelques petites variantes de ce système, mais qui étaient construites sur le même modèle. Donc ça, c'était jusqu'en 2008 finalement. Puisqu'en 2008, avec l'invention de Bitcoin, comme tu le soulignes, on a une rupture technologique, on a une vraie avancée dans la connaissance, puisqu'on est capable depuis 2008 de faire fonctionner un système de transaction sur Internet sur une architecture peer-to-peer, c'est-à-dire non plus de pair à pair, c'est-à-dire plus basé sur un serveur central qui contrôle toutes les transactions, comme c'était le cas auparavant.
Qui contrôle les transactions, on a un système central, et en plus qui crée ou détruit la monnaie selon...
Alors, quand je dis contrôle les transactions, c'est y compris les transactions de génération, qui en l'espèce pour les euros, sont des émissions de prêts. Hein. Donc l'émission des prêts est effectivement une transaction, hein, et dans une émission de prêts, il y a la création d'euros. C'est comme ça que sont créés les euros par les banques privées lorsqu'elles émettent des prêts. C'est un petit rappel, effectivement, qu'il faut faire, parce que c'est un mécanisme pas forcément toujours connu, ce qu'on appelle l'argent-dette. Donc je vais à la banque, je souhaite un prêt de 100 000 euros, la banque va le créer ex nihilo, donc en mettant dans la colonne de ses actifs le prêt, puisque maintenant c'est de l'argent que les 100 000 euros on lui doit à la banque, et puis aussi dans la colonne donc du passif, puisque la banque dépose 100 000 euros sur le compte de l'emprunteur, et donc elle doit 100 000 euros à l'emprunteur. Donc
voilà, alors c'est une création d'euros.
Une sorte de jeu à somme nulle.
Ouais, c'est une création d'euros qui est arbitraire, parce que décidée par le banquier. Peut très bien décider de donner du crédit aux uns et pas aux autres.
Par exemple, ce qu'il fait d'ailleurs.
S'il veut favoriser certains entrepreneurs et pas les autres, il va faire comme ça. Et ensuite, c'est aussi une création de monnaie illégitime, au sens où ces euros qui vont bénéficier à certains, qui vont faire travailler les autres, parce que ceux qui obtiennent ces crédits, le plus souvent, c'est les entrepreneurs, par exemple, qui vont faire travailler les autres en leur donnant ces euros qu'ils n'ont pas gagnés auparavant, auxquels ils ont eu accès par le crédit arbitrairement décidé. Et en plus, ces euros qui vont se déverser donc, par ces quelques élus, en quelque sorte, dans l'économie, vont participer d'une inflation qui part d'un centre et que vont subir les derniers voilà. qui, eux, ne jouent pas à ce jeu-là.
Alors absolument, puisque effectivement, normalement, la monnaie est créée au moment de l'émission du prêt, elle est détruite quand on rembourse le prêt. Sauf que, évidemment, le montant des prêts augmente constamment et plus vite que les remboursements, surtout quand en face, effectivement, pas assez de richesse est créée. Donc, on observe une augmentation constante, même exponentielle, de ce qu'on appelle la masse monétaire, hein, des euros, qui crée de l'inflation. Et qui est victime de l'inflation? C'est évidemment pas ceux qui ont beaucoup d'argent, puisque eux peuvent trouver des opportunités de placement qui vont les protéger de l'inflation. Ce sont les petits, hein, ceux qui, eux, n'ont que leur salaire voilà. pour vivre et qui, effectivement, voient les prix augmenter sans possibilité de s'isoler de l'inflation.
C'est-à-dire ceux qui ne sont pas partie prenante de cette augmentation voilà. de la masse monétaire.
Exactement.
Parce que si, sont... à la limite, tout le monde était partie prenante de cette augmentation monétaire, ben, l'inflation serait compensée par le fait que ben, si les prix augmentent de 5% parce qu'on a mis 5% de monnaie en plus, mais que tout le monde a reçu ce 5% en plus, personne ne serait lésé, bien sûr.
Voilà, plus tu es prêt dans un système centralisé, plus tu es proche du serveur central, en l'occurrence la banque, les banques, et plus tu gagnes. Hein. Donc en gros, si tu es le banquier, tu gagnes beaucoup, si tu es proche du banquier, tu gagnes encore pas mal, et puis plus tu t'éloignes de ces centres de contrôle, finalement, et plus tu es fragilisé, plus moins tu bénéficies du système.
Alors le Bitcoin maintenant, alors en quoi le Bitcoin participe de la réponse, justement, d'une réponse à ce... à cette critique du système monétaire, c'est ça qui est
voilà. Alors l'aspect centralisé donc est cassé complètement avec Bitcoin, puisque finalement on est maintenant avec Bitcoin dans un réseau complètement pair-à-pair, de peer-to-peer. Qu'est-ce que ça veut dire peer-to-peer? C'est simplement un réseau dans lequel aucun serveur n'a un avantage sur les autres. Hein. C'est ça la définition d'un réseau pair-à-pair. On a un protocole informatique qui est Bitcoin, hein. C'est l'invention qui a eu lieu en 2008. Après, les serveurs parlent entre eux en utilisant ce protocole, ce langage finalement, mais ce langage ne leur donne aucun avantage sur les autres.
Hein. Comme alors, on peut en citer des réseaux P2P pour ceux qui veulent s'y intéresser à la question, qui ne connaissent pas. Historiquement, on en a eu plein, parce qu'au début d'Internet, on avait le fameux Emule, qui marche encore d'ailleurs, toujours plus ou moins. Et on a BitTorrent aussi, qui est extrêmement ouais. connu maintenant aussi,
tout
qui
à fait.
Permet, voilà, c'est des réseaux sans centre, il n'y a pas de centre.
Absolument, et de manière intéressante, il y a aussi des abus de langage. Par exemple, le pair-à-pair peut être utilisé par Napster, alors qu'en fait Napster était un serveur centralisé, donc il y a bien des abus de langage. Quand on parle de pair-à-pair, il faut se méfier, c'est parfois du client à client. Par exemple, PayPal parle de pair-à-pair, de paiement pair-à-pair, en fait, c'est de client à client, d'un client PayPal à un autre client PayPal. Donc, il faut se méfier, quand une société commerciale utilise le mot de pair-à-pair, il faut bien vérifier qu'elle utilise un système pair-à-pair. En l'occurrence, Bitcoin, c'est bien ça, c'est un système de pair-à-pair. Alors, tu cites la musique en ligne. Dans la musique en ligne, typiquement, chacun a sa propre musique et va la partager avec les autres.
C'est pas que la musique, c'est tous les fichiers.
Oui, on peut prendre l'exemple de la musique ou des fichiers.
Non, mais c'est important de dire ça, parce que les producteurs de musique ou les tenants de droits de musicaux ou les tenants de droits de films ou producteurs de films ont critiqué, ont dit c'est une façon de... Mais en fait, non, parce qu'en fait, ça partage n'importe quel type de fichier. Si j'ai envie de partager un mail en P2P, je peux le faire avec ce principe-là. Si je veux partager des créations que je fais moi sans forcément y adosser de droits d'auteur, je peux le faire. Il y en a beaucoup. Par exemple, les distributions d'Ubuntu, qui sont des logiciels libres, se distribuent sur BitTorrent. Donc en fait, il y a aussi un mélange. Non, mais c'est volontaire d'ailleurs, je pense qu'il y a une sémantique qui se concentre sur les droits de certains fichiers qui sont en fait peanuts, qui sont quoi, un pour mille ou un pour un million de ce qui est échangé sur les réseaux P2P en fait.
C'est juste. Pour prendre l'exemple encore une fois du partage de fichiers, dans le cas d'un réseau pair-à-pair de partage de fichiers, chacun a sa base de données de fichiers évidemment et les met à disposition éventuellement des autres. Dans le cas de Bitcoin, c'est un petit peu différent. Le principe, c'est que chacun en fait a la même base de données qui est la base de données de toutes les transactions Bitcoin. Hein. Donc chacun partage ses transactions et la synchronise avec les autres de sorte que tout le monde a la même copie finalement du livre comptable Bitcoin. C'est ça le principe de base de Bitcoin.
Là, on peut dire que la base de données de l'ensemble des Bitcoins finalement est partagée par tous.
Exactement. Donc tout le monde peut vérifier. Hein. Quand un Bitcoin arrive dans une transaction, tout le monde peut évidemment vérifier son historique, donc remonter à la transaction de génération qui l'a créée.
A contrario, pour vous comparer avec l'euro par exemple, donc la banque centrale publie tous les mois un état de la masse monétaire dont en fait on ne connaît pas véritablement la qualité des données qui sont comme ça compilées. En fait, on n'en sait rien.
Absolument.
Alors qu'avec le Bitcoin, chacun a une copie.
Absolument.
Donc chacun peut savoir effectivement quand il y en a.
Voilà, exactement. Dans le cas d'un système centralisé comme l'euro, on a accès que à au minimum d'informations qu'on est autorisé à avoir, en gros, le solde de son compte et ses propres transactions. La banque ne montre pas les transactions des autres.
Mais accès aux transactions de tous les autres citoyens, parce que
voilà,
évidemment,
elle a toutes les données de toutes nos transactions, elle, la banque, et bien sûr, elle l'utilise pour nous protéger. Hein. C'est toujours pareil, évidemment, quand on capture les informations des citoyens, c'est toujours au motif de les protéger.
Comme la NSA, quoi.
Contre différents dangers qui sont divers et variés. Oui, alors la NSA, c'est encore autre chose. C'est devenu maintenant un concurrent de Dropbox, hein, puisqu'on peut maintenant sauvegarder ses données personnelles sur des serveurs aux États-Unis pour une durée illimitée. Donc, non, je plaisante.
Sauvegarder ou donner en gage, en fait.
Je plaisante. Ouais. Tout ça pour dire que Bitcoin réalise donc une avancée technologique majeure, dans le sens qu'on peut construire un système de transaction réellement de pair à pair sur Internet depuis 2008-2009. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, cette invention a rencontré du succès et qu'aujourd'hui, c'est constitué un réseau sur ce protocole, de même que SMTP a donné naissance au réseau email et qu'on sait qu'aujourd'hui, il fonctionne très bien. Bitcoin peut être comparé à SMTP, hein, c'est un protocole de la même nature qui est libre. Et donc autour de Bitcoin, c'est constitué un réseau. Que fait ce réseau concrètement avant même d'être une monnaie, parce qu'on va parler pas mal de monnaie, mais avant d'être une monnaie, c'est d'abord un réseau de paiement. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser le réseau Bitcoin en déplaçant des Bitcoins du point A au point B et ce qu'on appelle traiter une transaction. Hein, donc,
sauf si on n'en a pas.
Alors même si tu n'en as pas, puisque finalement, si tu as des euros, oui, quelqu'un peut te proposer un service qui va en fait convertir tes euros à la volée en Bitcoin, les envoyer à ton destinataire et faire la même chose chez le destinataire, convertir à la volée les Bitcoins en euros. Donc là, tu peux aussi, on peut aussi voir les Bitcoins avant d'être une monnaie, comme une sorte de commodité numérique, une matière première numérique, qu'on utilise dans des échanges, un peu sur le mode du barter plutôt. Et c'est intéressant de noter que du coup, la valeur du Bitcoin, quand on utilise le taux de change du Bitcoin, quand on utilise Bitcoin comme ça, en tant que ce qu'on appelle une méta-devise, hein, c'est-à-dire juste une devise pivot, en fait, ce taux de change n'a aucune importance. Hein, c'est-à-dire que si j'achète...
Oui, parce qu'à l'instant T, il varie très peu.
Voilà, parce qu'entre le moment où le Bitcoin est échangé contre des euros de l'envoyeur au destinataire, il n'y a pratiquement pas de variation du taux de change. Donc, en gros, c'est-à-dire quelques secondes, hein, on est clair là-dessus. Du coup, le taux de change n'a pas d'importance. Je prends l'exemple de cette montre que j'ai achetée sur Internet avec des Bitcoins. En fait, donc, elle était mise à prix à 300 euros. À l'époque, le Bitcoin valait 100 euros. Donc, j'ai envoyé 3 Bitcoins au marchand, qu'il a aussitôt converti en 300 euros. Donc, pour lui, c'était une transaction normale qui aurait pu lui arriver par le réseau Visa ou le réseau Mastercard, mais sauf que là, elle est arrivée par le réseau Bitcoin. Ouais. Et pour moi, j'ai juste changé 300 euros contre 3 Bitcoins quand je l'ai acheté. Donc pour moi aussi, j'ai dépensé 300 euros. Le fait que 3 Bitcoins aient circulé entre moi et le marchand, finalement, aujourd'hui, n'a plus aucune importance.
C'est-à-dire qu'en fait, la limite, le tiers de transfert qui avant était effectivement les réseaux de paiement Visa Mastercard peut être... réalisé par cette masse de Bitcoin qui sert
par le réseau,
de compensation.
D'abord par le réseau lui-même, c'est-à-dire que le tiers de confiance, au lieu de devenir une société, au lieu d'être une société comme Visa, Mastercard ou ta banque, en l'occurrence, c'est plus une société constituée, c'est un réseau de pair à pair. Donc ça change complètement, ça crée une nouvelle entité qui n'a pas de cadre juridique. Aujourd'hui, un réseau de pair à pair, on ne sait pas qualifier un réseau de pair à pair. Par exemple, le réseau email, ça fonctionne comme une société, c'est-à-dire que ça rend des services, c'est un modèle économique, etc. Et pour autant, il y a des gens qui participent, donc ils peuvent être considérés un petit peu comme des employés de l'email. De même que si tu fais du minage sur le réseau Bitcoin, tu peux être considéré comme un employé finalement de cette entité, mais qui n'est pas une société.
Mais non, parce qu'en fait, on peut y rentrer ou en sortir à tout moment.
Voilà, il n'y a pas de contrat entre toi et cette entité, il n'y a pas de contrat de travail, et pourtant tu fournis un travail, pourtant tu es rémunéré, puisque si tu es mineur, tu vas recevoir... Des récompenses qui sont émises par le réseau, ces fameuses transactions de génération. Tu vas recevoir aussi des fees de transaction. Donc parce qu'il y a deux aspects en fait dans le travail de participer au réseau. Il y a l'aspect de travailler sur la sécurité du réseau, et ça c'est ce qu'on appelle le minage. Ça va créer des nouveaux bitcoins avec en les estampillant avec une signature cryptographique.
Sachant que cette création est limitée.
Elle est limitée, on pourra y revenir, mais elle est limitée effectivement. Mais en tout cas, il y a cette rémunération pour la sécurité du réseau. Et après, il y a une rémunération pour le traitement des transactions sur ce réseau, qui est un deuxième aspect du travail des mineurs, qui vérifie les transactions qui circulent et qui comporte des frais de transaction. Donc, ils gagnent sur deux tableaux, je dirais. Ils ont une rémunération à deux étages, qui est parfois le cas, d'ailleurs, parfois un fixe et un variable. Mais en tout cas, on a bien affaire à une rémunération par une entité qui n'est pas une société, et, ouais. et vers quelqu'un qui n'est pas un employé, par définition, du coup. Mais pourtant, donc, ce qui est intéressant...
Qui est un nombre, on peut le dire, qui est en fait une collection d'individus non fixe, c'est-à-dire mouvante.
Il y en a qui partent. C'est une communauté libre, au
y en a
sens
qui rentrent, voilà.
On peut rentrer et sortir comme on veut, librement. On n'est pas forcé d'y participer si on n'a pas envie de. Si cette société ne nous plaît, enfin cette entité ne nous plaît pas, on n'est pas forcé d'y participer. Mais si on le fait, on va être finalement dans une relation assez semblable à celle qu'on a avec une société classique, sauf qu'il n'y a pas de cadre juridique autour. Et il y a donc cette liberté, ce qu'on appelle l'absence de friction, à l'entrée et à la sortie dans le système qui fait son succès aussi.
En fait, c'est Bitcoin le cadre.
Ben, le réseau lui-même est, voilà. Et son cadre, et les juristes ouais. évidemment sont à la ramasse, hein, tu t'en doutes. Déjà, ils ne comprennent pas la technologie.
Oui.
Ils vont mettre probablement 5 ans à en parler entre eux.
Oui.
C'est-à-dire entre gens qui ne connaissent pas la technologie.
Oui.
Ils vont prendre des avis qu'ils ne comprendront non, pas.
Il n'y a que des développeurs donc, informatiques qui doivent comprendre ce réseau.
Mais à la, donc non, je caricature un peu la chose, parce que c'est vrai qu'il y a des juristes qui sont aussi ingénieurs, donc qui vont quand même.
Ils ne sont pas nombreux.
Il y en a quelques-uns. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, ce n'est pas important. Ça va être une sorte de bruit autour de l'invention et du réseau. Mais aujourd'hui, le système email fonctionne à la satisfaction de tout le monde sans aucun cadre juridique.
Oui.
Le web est aussi un réseau de pair à pair avec HTTP, un autre protocole. Et il fonctionne aussi. Alors on peut dire qu'il y a le W3C, par exemple, qui est une sorte de satellite hein, de l'entité en question,
oui.
mais qui en aucun cas peut dire que le W3C, c'est le web.
Non, parce
c'est
que
juste une entité qui est autour du web, qui tente de canaliser les travaux de normalisation.
C'est un organisme de proposition de normes, et on n'est même pas obligé de le suivre.
On n'est pas obligé de les suivre. Ouais. On peut implémenter un navigateur qui ignore le W3C.
Voire même qui invente un nouveau langage.
Qui invente un HTTP version X ou Y. Donc ouais. tout ça montre que on crée une association en disant voilà, elle représente le réseau, en fait, ce n'est pas vrai. Elle est juste satellite de cette entité.
Elle ne représente que les individus qui sont dedans.
Exactement. Et le réseau, c'est pareil. Il représente la puissance de travail et les ressources des gens qui sont dedans, et il offre un service qui est en rapport avec cette ressource.
Alors plutôt que de parler de la puissance de travail et des ressources des gens qui sont dedans, moi je dirais juste les gens qui sont dedans, parce que si on commence à parler de puissance de travail et de ressources, on suppose que ça serait définissable, or ça ne l'est pas.
Oui, j'entends par là, leur intelligence, leur
pas,
machine.
Non, même pas, leur être.
Donc ils contribuent, voilà.
Ils existent et ils l'utilisent, point.
Absolument. Mais c'est une ressource. Enfin, on peut le voir comme une ressource pour les autres, puisqu'ils la mettent à disposition des autres, finalement.
On peut le voir comme ça, bien sûr. On peut l'interpréter de cette façon.
Ou
d'une autre façon.
Oui. Oui, bien sûr.
Alors, dernier point pour parler de ça, puis après, on va parler de l'état actuel de l'art. Bon, il y a quand même... Alors, tu as parlé, effectivement, alors ça, c'est effectivement tout à fait nouveau. Plus de centres, plus de réseaux bancaires centralisés quelque part pour faire des transactions au sein du Bitcoin. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça, évidemment, c'est du P2P total. Et on l'a abordé, et on l'abordera encore dans la troisième partie, bien sûr. Mais par contre, il y a, bien sûr, cette création de Bitcoin qui, à un moment donné, sera finie. Elle sera terminée, elle est en cours de se terminer,
oui,
on peut dire.
Dans une centaine d'années.
Oui, mais peu importe, je veux dire en termes de quantité de Bitcoin.
On a dépassé la moitié.
On a dépassé la moitié, donc on peut dire qu'en gros, bon, voilà, l'essentiel est créé, on peut faire que deux fois plus.
Oui.
Donc, voilà. Donc en fait, cette création, par contre, de Bitcoin est déterminée. Donc en quelque sorte, d'un point de vue qu'on peut quand même constater, ça c'est un fait. Après, on lui met l'interprétation qu'on veut derrière. Hein. Je ne suis pas en train d'essayer de critiquer là, mais juste de donner une interprétation, c'est que du point de vue des nouveaux entrants, des hommes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui auront 20 ans dans 30 ans, dans 40 ans, et ceux qui auront 20 ans en 2080, bon, mais eux, ils pourront que constater que la communauté initiale s'est attribué ses bitcoins, et puis que ceux qui auront des bitcoins à ce moment-là, s'il est toujours en circulation, eh bien, sont ceux qui, de proche en proche, sont liés à cette communauté initiale. C'est-à-dire qu'un nouveau entrant n'est pas considéré comme étant une base du Bitcoin par défaut. Il ne l'est que si il va faire une transaction, donc un échange très probablement économique préalable avec la communauté initiale du Bitcoin. Donc il faut juste le savoir, c'est que d'un point de vue strictement, je dirais, paradigmique, d'un point de vue référentiel, les hommes dans l'époque actuelle, en quelque sorte, ont un privilège devant la création des premiers Bitcoins et sont déjà la base de transmission de ces bitcoins vis-à-vis des hommes qui ne sont pas dedans et qui arrivent année après année dans le truc. Donc c'est pas une critique que je fais, c'est juste un constat qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire que si on veut rejoindre le réseau Bitcoin aujourd'hui, je dirais, voilà, on est déjà en retard par rapport à ceux qui l'ont rejoint évidemment au début. Et on sera toujours en retard, et plus on va avancer dans le temps, plus on sera en retard. C'est-à-dire que dans 120 ans, on sera encore plus en retard qu'aujourd'hui.
Oui, alors ça, c'est la vision, comme si Bitcoin était un système monétaire imposé. Si on prend en compte le fait que c'est un réseau libre, qu'on n'est pas forcé de rejoindre, on va le faire que si on y trouve finalement aussi un intérêt, alors à la fois, militant, parce que évidemment ça casse un monopole, qui est celui des systèmes de paiement traditionnels. Il me semble important de casser ce monopole. Donc on a là un réseau libre qui s'est formé, qu'on peut utiliser comme réseau de paiement. Ça, c'est une chose. Et ce réseau de paiement est une ressource, presque matérielle. On a un choix de plus dans nos modes de paiement, notamment sur Internet. Donc c'est pour ceux qui arrivent, les nouveaux qui arrivent, c'est quelque chose en plus qui n'existait pas avant. Moi, je le vois plutôt comme ça. Après, si on dit au niveau de la distribution, de la création monétaire, effectivement, certains ont pu en bénéficier plus que d'autres.
Donc là, on parle d'un point de vue référentiel. Je prends les individus pour référentiel.
Oui. Mais quand on parle de création monétaire, déjà, on est passé de Bitcoin en tant que réseau de paiement à Bitcoin en tant que monnaie, système monétaire. Donc, en tant que système monétaire, c'est presque un autre débat.
Oui, c'est presque un autre débat.
Et je pense qu'effectivement... là, on rentre plutôt dans une discussion à la fois philosophique et politique pour juger, disons, les différentes options de différents systèmes monétaires. Et aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt, de toute façon, pour Bitcoin, pour rentrer dans ce débat, parce qu'il doit d'abord s'imposer comme un réseau de paiement.
Tout à fait. Alors,
viendra peut-être une monnaie à part entière, mais le mot monnaie est tellement chargé de sens et a priori que c'est presque contre-productif de parler de Bitcoin en tant que monnaie aujourd'hui, parce que les gens tentent à ce moment-là de plaquer dessus leur définition de la monnaie qui est forcément biaisée par leur éducation, puisque depuis qu'ils sont tout petits, ils n'ont entendu parler que de la monnaie, de l'argent dette.
Alors qu'ils n'ont même pas. On n'en entend parler que depuis très peu de temps, en fait.
Avant Internet, on n'en parlait même pas du tout. Avec Internet, le mécanisme de l'argent dette commence à être révélé à plus en plus de gens, donc il va forcément... s'effondrer de lui-même, puisque plus on en sait sur ce système de l'argent dette en tant que monopole, plus on est en capacité de le contester et de reconnaître son caractère frauduleux.
C'est ça, c'est son iniquité qui le fait s'effondrer et non pas des facteurs économiques. C'est ça que les économistes n'arrivent pas à comprendre. C'est le fait qu'on refuse de plus en plus de cautionner cette monnaie, donc de l'utiliser, donc de passer par des biais autres, à cause de l'iniquité en fait.
C'est surtout le monopole qui est problématique. En fait, dans l'argent dette, on peut dire qu'il y a des.
Tu sais bien que monopole est synonyme d'iniquité.
Voilà, et même de fraude en l'occurrence, puisque il y a certains aspects qui sont carrément frauduleux dans l'argent dette en tant que monopole. Si l'argent dette est en concurrence avec de l'argent valeur, par exemple, comme Bitcoin ou d'autres systèmes, à ce moment-là, il retrouvera effectivement une légitimité. Tant qu'il est un monopole, il est contestable, il doit être contesté et il doit être combattu même.
Oui, alors je voudrais donner un point de vue sur. Que tu as cité, il me semble bien, sur ton réseau Educat, et avec lequel je suis entièrement d'accord, et qu'on peut dire, en fait, on peut qualifier Bitcoin de valeur libre, au sens où, bien sûr, elle n'est pas déterminée par un centre, etc., et qu'il y a une mouvance possible au sein de la communauté qui l'utilise, et de façon, je dirais, imprévisible et non fixe, donc de ce point de vue-là, c'est effectivement totalement P2P, etc. Donc, en tant que valeur, il n'y a pas de problème à la considérer comme valeur, et d'autant plus... qu'on peut aussi le considérer comme un pool d'actions. Je crois que tu avais employé ce terme, et c'est un terme que j'emploie depuis très longtemps aussi. Mmh. Effectivement, les gens ont du mal avec ça, mais tu parlais de l'action Apple, et c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que je peux utiliser l'action d'Apple comme étant une valeur, c'est une valeur, elle a un certain taux d'échange, etc., ça me donne un pouvoir sur l'entreprise, voire un droit au dividende, voire un droit de vote, etc., donc ça a une valeur, parce que ça me fait participer de la valeur de production et de vente de l'entreprise Apple, et pour autant, cette action n'est pas utilisée, cette action Apple n'est pas utilisée comme monnaie, elle pourrait, c'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait valoriser tous les prix dans le taux de valorisation de l'action Apple en euros telle qu'elle est connue aujourd'hui, et dire, voilà, ceci vaut tant d'actions Apple, ceci vaut tant, etc. Donc c'est un choix, je dirais, de référentiel d'utiliser une valeur, que ce soit le Bitcoin, une action Apple ou n'importe quoi, comme une unité de mesure et d'échange. Oui. Mais après, la question effectivement de monétaire est plus subtile et plus profonde, mais ça n'empêche pas au Bitcoin effectivement d'être une valeur et de pouvoir être utilisé comme valeur et y compris, comme tu le disais, comme intermédiaire de valeur d'échange. Et là-dessus, il n'y a pas de discussion possible, je dirais, devant la réalité expérimentale, si on est vraiment scientifique, ça marche.
C'est ça.
C'est-à-dire, c'est utilisé, ça marche, et la question ne se pose pas. Ouais. Après, la pertinence pertinence de ce système pour faire autre chose, elle se pose, mais je dirais elle se pose pour toute chose.
Voilà, c'est pas universel, c'est pas la solution universelle à tous les problèmes, évidemment. Bien et sûr. C'est parfois effectivement des gens qui critiquent c'est un projet, en fait, c'est parce qu'ils ont en tête d'autres objectifs que le projet lui-même. Donc c'est presque...
Bien sûr.
Ça n'a pas beaucoup d'incidence. Par contre, ce que tu soulignes, effectivement, est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on est avec Bitcoin dans une notion d'argent-valeur, que j'oppose à la notion d'argent-dette. Et c'est en ça que Bitcoin est complémentaire. C'est-à-dire que s'il était construit sur les mêmes règles que l'argent-dette, évidemment, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, on l'a déjà dit. Ce qui est intéressant dans Bitcoin, c'est que comme c'est une monnaie-valeur construite sur des règles complètement différentes de l'argent-dette, eh bien, on a les bénéfices économiques qu'on peut attendre de la complémentarité. Donc c'est exactement comme dans le domaine des transports, on a l'avion et le train qui se complètent, et évidemment, c'est parce qu'ils sont construits sur des schémas complètement différents. Alors, à ce qui concerne Apple, les actions, effectivement, on a dit plus tôt tout à l'heure que Bitcoin n'était pas une société commerciale, donc effectivement, c'est des actions, mais sur une entité qui est d'un type nouveau. Dans le cas de l'action Apple, évidemment, il y a des limites à ce qu'on vient de dire, puisqu'il y a un émetteur, hein, qui est la société Apple, il y a un problème de divisibilité, hein, la société peut décider de faire ce qu'on appelle des splits, mais en gros, l'action Apple, si elle vaut 500 euros, je crois à peu près son cours, elle n'est pas très facile à utiliser dans la vie courante, etc. etc. Donc, on voit bien que, effectivement, la notion d'action en tant que monnaie n'est pas très pratique si c'est une société commerciale, et surtout elle pose le problème de la centralisation, puisque effectivement dans ce cas c'est l'émetteur de la monnaie serait la société en question, le directeur financier de la société en question. Dans le cas de Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une société, et donc on a un schéma vraiment nouveau dans lequel on bénéficie de la décentralisation.
Très bien. Alors, on va arrêter là cette première partie. On a parlé, hein, de Bitcoin comme crypto-système officiel. On a vu déjà pas mal de points. Et maintenant, on va se quitter, tu sais, sur une musique pour cette première pause. Tu sais comment sont les musiques sur Monnaie Libre, t'es au courant?
Dis-moi en plus.
Elles sont libres aussi.
Donc... Ouf, je respire.
Voilà, donc on se quitte sur cette première pause et on se rejoint juste après pour continuer notre découverte et notre explication du réseau Bitcoin. We'll be right back. Nous voilà de retour après cette première pause. Nous continuons à parler avec Pierre Noizat de Bitcoin. Alors, Pierre, on a donc vu dans cette première partie comment le Bitcoin pouvait être perçu comme une critique du système monétaire à réserve fractionnaire qui ne s'impose pas a priori comme étant quelque chose d'indépassable. La preuve, Bitcoin existe. Bitcoin peut faire office de valeur d'échange. Et bon, à la limite, on n'a pas besoin d'essayer de lui calquer les propriétés de monnaie telles qu'on pourrait concevoir la monnaie, etc. Et on peut penser d'autres types de systèmes. On y viendra dans la troisième partie. Et donc, ça n'empêche pas de considérer le Bitcoin comme un peu comme une action d'entreprise, mais ici, une action d'un type nouveau, comme tu disais, et qui sert effectivement de valeur et de valeur d'échange, notamment de valeur de réserve aussi. Et plus de gens l'utilisent, mais plus cette valeur se réalise. Alors justement, on y arrive. Après cette genèse historique un peu du Bitcoin et cette transformation de la comme ça de la perception de ce qui peut être utilisé de façon légitime ou pas, de façon équilibrée ou pas entre individus pour avoir un moyen d'échange, on arrive à l'état du Bitcoin. Ça va nous intéresser parce que le Bitcoin il existe. Il faut bien que chacun en prenne conscience. C'est un fait. C'est pas quelque chose qui se discute. Je dirais il existe. Il y a des individus.
Le réseau existe donc Bitcoin existe. Il n'existe que à travers et parce qu'il y a un réseau puissant, donc puissant au sens qui amène une grande sécurité dans les transactions,
ouais,
et qui traite des transactions. C'est ça qui est le collatéral, parce que parfois les gens demandent qu'est-ce qu'il y a. En fait, il n'y a rien qui justifie la valeur. Bien sûr que si, il y a un réseau, donc un réseau a une valeur. Le réseau email, c'est très difficile de mettre une valeur dessus. Le réseau web aussi, c'est très difficile de le valoriser. Dans le cas du réseau Bitcoin, c'est relativement simple, puisqu'on a des Bitcoins en circulation qui ont un taux de change qui peut s'exprimer en euros, on peut dire effectivement que le réseau Bitcoin aujourd'hui est valorisé autour de 2 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que transférer de l'argent du point A au point B aujourd'hui, ça coûte de l'argent si on utilise un autre réseau. Si vous utilisez Visa ou Mastercard ou un réseau de transfert comme Western Union, ça coûte de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces sociétés Visa, Mastercard ou Western Union ont des valorisations en bourse. Elles ont donc une valeur du point de vue de la communauté économique. Pour rappel, Visa, Mastercard combiné, c'est à peu près 200 milliards de valorisation boursière. Donc que Bitcoin représente aujourd'hui à peu près 2 milliards, c'est-à-dire un centième.
Alors on va y venir.
De ces réseaux n'est pas,
2 milliards
n'est
de
pas
quoi
forcément
2 milliards, de...
2 milliards de dollars.
D'euros.
Hein, on n'est pas, voilà, pas très loin, puisque tout ça est quand même assez variable, mais c'est des ordres de grandeur plutôt.
Des ordres de grandeur. Non, mais il faut le savoir quand même, c'est que. Parce que là, dans cette deuxième partie, on va creuser ça. Donc aujourd'hui, à l'instant où on parle, donc on est en octobre 2013, si on regarde le cours du Bitcoin tel qu'il s'échange aujourd'hui sur le réseau, l'ensemble des Bitcoins en circulation a un équivalent. Alors évidemment, si tout le monde vendait ses bitcoins, cette valeur s'effondrerait parce qu'il faudrait.
Pour une action.
C'est comme pour une action. Mais si on calcule le taux de change actuel du bitcoin vis-à-vis d'une autre monnaie telle que l'euro et la somme des bitcoins en circulation, on arrive à 2 milliards d'euros. C'est une valeur économique qui semble importante. Évidemment, d'un point de vue individuel, 2 milliards c'est beaucoup, mais. Bon, par exemple, Madame Bettencourt, elle est riche de presque 10 milliards. Hein, donc
exactement, ou Bill Gates ou Mark Zuckerberg ont gagné beaucoup plus.
Et le PIB français, c'est de l'ordre de 2000 milliards ou un truc comme ça. Enfin, c'est beaucoup plus. Donc voilà, c'est juste pour mettre les choses un peu aussi en relation. Hein,
mais... Alors un autre ordre de grandeur qu'on peut citer, c'est le marché d'échange, c'est-à-dire en gros parce que parfois on entend aussi des critiques sur la spéculation. Alors évidemment, Bitcoin n'est pas une solution à la spéculation. Évidemment, une valeur ne va pas changer la dynamique de la spéculation, qui pour moi est plus un phénomène naturel. Hein. C'est un peu comme la pluie et le beau temps. On ne peut pas s'opposer à la spéculation, puisque la spéculation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelqu'un qui dit « je mets de l'argent, je consacre, j'épargne pour finalement financer quelque chose en espérant que ce quelque chose va réussir et que je vais être gagnant ». Ça, c'est dans la nature humaine et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs on empêcherait les gens d'épargner et d'investir. Donc la spéculation en tant que telle, c'est un phénomène naturel et Bitcoin n'est pas la solution, ne va pas arrêter la pluie ou le soleil et de la même façon, Bitcoin ne va pas arrêter la spéculation.
Surtout que l'interprétation de la spéculation est toujours, pas toujours, le problème c'est qu'on l'interprète toujours forcément dans un seul sens. Or on peut très bien dire, par exemple, la valeur du Bitcoin monte, que de dire, ben non, c'est l'euro qui baisse.
Oui, exactement. Alors, il y a plusieurs lectures, effectivement, des phénomènes, et surtout, quand il y a la pluie et le beau temps, il y a aussi la sécheresse et les inondations, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui est bénéfique, la spéculation a un côté bénéfique quand elle finance des projets utiles, et des effets moins bénéfiques quand elle vient effectivement favoriser, par exemple, des gros producteurs par rapport à des clients. Donc, juste pour faire court, ouais. je voulais citer le marché d'échange, où aujourd'hui, sur le marché d'échange dans le monde, tous les jours s'échangent 3 000 milliards l'équivalent de 3000 milliards d'euros hein, de devises. Donc c'est considérable.
On parle en euros ici, en euros, parce qu'on est quand même en zone euro.
3000 milliards, assez... c'est l'ordre de grandeur là encore, qu'il faut retenir.
Tu sais, c'est comme les unités du système international, le mètre, le kilogramme, etc. Et on se retrouve avec des anglicans là. Oui.
Donc parlons en euros.
Hein, qui nous parle en onces, en pounds, et en je sais pas quoi.
Alors donc c'est plus ça, on va parler en euros. Donc 3000 milliards, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut retenir pour les échanges sur le marché des devises hein, qui s'échangent tous les jours. Donc quand on voit la valorisation du réseau Bitcoin dans son entièreté, hein, à peu près 2 milliards, on voit que c'est même pas l'épaisseur du trait, hein, c'est une poussière par rapport au phénomène de la spéculation dans son ensemble.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'il faut relativiser tout ce qu'on entend sur la spéculation. Encore une fois, Bitcoin, c'est pas d'un coup d'une baguette magique, on va pas résoudre tous les problèmes de la Terre. La spéculation peut être une bonne et une mauvaise chose, et Bitcoin n'a pas d'influence, soyons clairs, sur le phénomène de la spéculation.
Oui, à la limite, ceux qui spéculent, c'est leur fait à eux. Je veux dire, c'est le fait des individus.
Et on peut pas l'empêcher. Surtout
avec une valeur aussi libre.
Si une monnaie est un médium d'échange, donc facilement échangeable, c'est la définition d'une monnaie, c'est facilement échangeable, elle sera forcément sujette à la spéculation. C'est une donnée de base, comme la pluie et le beau temps. On construit une maison, elle sera soumise à la pluie et au beau temps.
Alors, on vient dans cette deuxième partie. On a parlé de la valorisation aujourd'hui, de milliards d'euros, hein, pour l'instant du Bitcoin en circulation. Et on va revenir un peu justement sur la mécanique interne du Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin ? Alors, en fait, tu vas nous expliquer un peu, en deux mots, c'est une chaîne de données chiffrées, de données cryptées, une chaîne de cryptographie, donc c'est à base mathématique, hein, tout ça, hein, c'est assez pointu, ça évite de se faire casser, etc. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, et d'autant plus solide qu'il y a deux mondes qui participent à ce réseau, qui installe, tu vas nous expliquer ça, hein, on va en venir sur cette explication, et dans un deuxième temps aussi, depuis son début, finalement, combien de bitcoins ont été générés, combien il en reste à générer, simplement pour le savoir comment ça fonctionne, techniquement, en plus, et après on viendra sur un autre point sur son fonctionnement. Mais d'abord, techniquement, à la fois comment ça fonctionne et historiquement comment ça s'est développé et où on en est aujourd'hui en termes de Bitcoin pur, l'entité technique.
Alors, expliquer le fonctionnement de Bitcoin, ça, si on veut rentrer vraiment dans le détail, ça peut prendre du temps, en gros une journée, si on veut l'expliquer dans le détail à quelqu'un qui veut savoir exactement les détails de la recette. La recette, je peux donner les ingrédients de la recette d'abord.
Voilà,
c'est intéressant. Le premier ingrédient, c'est ce qu'on appelle les empreintes numériques, c'est-à-dire si je prends un message, quel qu'il soit, un message de transaction, par exemple Pierre paye Stéphane un Bitcoin, ça c'est un message. Si je prends l'empreinte de ce message, je vais avoir ce qu'on appelle une chaîne de caractères, qui a l'air aléatoire, hein, qui est en tout cas très abscon, et qui est le résultat en fait de ce qu'on appelle une fonction de hachage. Hein, c'est-à-dire qu'on a haché menu le message et on en a fait une chaîne de caractères. La caractéristique de cette chaîne, c'est que si je change une virgule au message, la chaîne de caractères change complètement. Donc ça me donne, si j'ai une chaîne, une empreinte d'un message, je peux dire. Si j'associe ce message à cette chaîne, finalement, la chaîne représente le message, puisque si j'ai changé une virgule à ce message, je retrouverai jamais cette chaîne-là. Hein. Donc, c'est une sorte de photo floutée. Hein. Enfin, je sais pas comment on peut le décrire. C'est une empreinte numérique du message. Donc ça, c'est important de connaître ce mécanisme. Si vous voulez approfondir, il faut bien comprendre
ce que c'est. Comme le QR code, on peut parler du QR code. Le QR code représente...
Non, QR code, c'est encore autre chose. C'est une représentation d'une chaîne de caractères. Ça peut être, effectivement, on peut la représenter de différentes façons.
Oui. Mais on peut dire le QR code et la chaîne qui le représente. On peut dire ça aussi.
Oui, alors,
on peut imaginer un réseau de QR code où on s'envoie que des QR codes partout. Et en fait, c'est une façon, finalement, de chiffrer de façon exacte.
Alors, en l'occurrence, une chaîne, une empreinte numérique n'est pas chiffrée. Hein. Elle, tu peux la retrouver avec simplement la fonction de hachage. Fonction de hachage, c'est par exemple SHA-256 qui est utilisé en Bitcoin ou MD5, des fonctions qu'on appelle à sens unique en mathématiques, c'est-à-dire si j'applique cette fonction au message, j'obtiens l'empreinte. Par contre, à partir de l'empreinte, je ne peux pas retrouver le message. Hein. Donc, je ne peux pas, trafiquer l'empreinte. Bon, donc ça c'est le premier point. Le premier ingrédient dans la recette Bitcoin, c'est l'empreinte numérique. Si vous n'avez pas compris ce que c'est une empreinte numérique, n'allez pas plus loin, vous ne comprendrez pas vraiment le fonctionnement mathématique de Bitcoin. Hein. Donc deuxième étape, c'est comprendre ce que c'est que la signature électronique. En fait, une signature électronique, c'est quoi ? C'est une empreinte numérique chiffrée. Donc là, quand on envoie le message « Pierre envoie à Stéphane un Bitcoin », on a pris son empreinte numérique, donc cette fameuse chaîne de caractères dont je viens de parler. Et maintenant, on fait la signature, c'est-à-dire qu'on va crypter cette empreinte avec, en l'occurrence, c'est moi qui envoie le message, je vais signer avec ce qu'on appelle une clé privée. Hein. Donc je vais crypter l'empreinte, ça devient ce qu'on appelle une signature électronique. Là encore, chercher signature électronique, si vous n'avez pas compris vraiment ce que c'est qu'une signature électronique, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il faut, pour rentrer dans le détail, comprendre.
Bon, on peut expliquer quand même, tu as un algorithme secret, bon, pour faire simple, bon, c'est encore plus secret
alors,
que
non,
ça.
Non, c'est pas secret, les algorithmes sont publics.
La clé secrète.
La seule chose qui est secrète, c'est la clé. Hein.
Voilà, mais la clé sert à paramétrer cet algorithme
clé,
de façon unique.
La clé, c'est ma clé privée, voilà. Pierre Noisin, donc c'est ma signature. Ma signature, il n'y a que moi qui peux la fabriquer. Mm. Par contre, j'ai attaché à cette clé privée, il y a ce qu'on appelle une clé publique. Hein, c'est-à-dire que les clés, ce qu'on appelle des paires de clés. On utilise en cryptographie des paires de clés, voilà. Une clé privée et une clé publique.
Parce qu'on peut écrire, donc, mais seul toi peut déchiffrer.
Voilà, ma clé publique, c'est un peu comme mon adresse. Je la publie dans un annuaire, sur ce qu'on appelle un key server, par exemple, qui a toutes ces clés. Donc, on peut me retrouver, trouver ma clé publique. Donc, quand tu reçois mon message signé, toi, Stéphane, tu vas chercher ma clé publique sur Internet, tu vas la trouver facilement puisque je l'ai publiée, et tu vas donc déchiffrer la signature que j'ai fabriquée avec ma clé privée, tu vas déchiffrer avec ma clé publique, et tu vas retrouver comme ça l'empreinte du message, et tu vas vérifier en appliquant cette fonction à sens unique dont je parlais tout à l'heure, tu vas vérifier que l'empreinte du message correspond bien au message. Donc ce que tu auras fait à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle vérifier une signature. Voilà, donc là, quand on a dit ça, on a déjà compris une moitié de Bitcoin, c'est-à-dire le principe de messages signés. Alors les messages, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, ils ne sont pas cryptés, ils sont tous en clair. Ouais. Par contre, ils sont signés. C'est-à-dire que les transactions sont en clair, mais elles sont signées, donc on peut vérifier qu'elles proviennent bien, par exemple, de moi. Si je t'ai envoyé un Bitcoin, tout le monde peut vérifier que c'est bien moi qui l'ai signé. Donc on en arrive là à une première notion dans Bitcoin, c'est-à-dire que la propriété de la clé privée d'un Bitcoin, c'est comme la propriété du Bitcoin. Donc quand on dit j'ai des bitcoins, en fait j'ai des clés privées qui me permettent de déplacer des bitcoins dans la base de données bitcoin. Mmh. C'est ça que ça veut dire. Mmh. On ne possède pas réellement des bitcoins, puisque les bitcoins vivent dans une base de données
partagée.
Sur internet, partagée, en peer-to-peer.
Voilà, on les a pas dans la poche.
Ils vivent en fait dans des transactions, dans des messages de transactions.
C'est le chiffrage qui permet
La notion de propriété en fait de bitcoin, ce n'est que la propriété des clés privées qui permettent de les bouger.
Ouais.
Voilà, donc ça, voilà, là déjà on a compris, je pense, pas mal de choses sur le fonctionnement de Bitcoin. Deuxième point, c'est comment on sécurise cette fameuse base de données. Donc les messages, comme je viens de l'expliquer, les messages de transaction, ils sont envoyés sur le réseau. Si je veux te payer une somme d'argent, j'envoie le message sur le réseau. En gros, deux secondes après, ton ordinateur va recevoir le message de transaction. Donc on a sur un réseau pair à pair une grande rapidité, une performance très grande, parce que le réseau a une bonne densité et il fonctionne très bien. Donc le deuxième aspect, c'est la deuxième question qui se pose, c'est comment on sécurise la base de données des transactions. C'est-à-dire comment on fait que quelqu'un ne vient pas écrire des transactions, des fausses transactions, mais surtout réécrire l'historique des transactions, ce qui serait problématique, puisque là, on pourrait effacer les transactions de paiement et faire ce qu'on appelle de la double dépense, c'est-à-dire dépenser plusieurs fois les mêmes bitcoins. Donc ça, c'est pas possible, c'est le problème qui a été résolu par l'invention de Bitcoin, il est essentiellement là, c'est comment on évite... Comment on maintient cette base de données de transactions en mode pair à pair. Et donc là, on utilise une nouvelle notion en cryptographie qui s'appelle la preuve de calcul. Donc là, encore, je vous invite à regarder ça sur Internet si vous voulez approfondir, parce qu'en quelques minutes, ça va être difficile. Mais en gros, une preuve de calcul cryptographique, ça peut être, et en l'espèce dans Bitcoin, c'est ça, c'est une empreinte d'un message ou d'un bloc de message qui a des caractéristiques particulières. En l'occurrence, dans Bitcoin, c'est une suite de zéro. C'est-à-dire que l'empreinte du message, au lieu d'être complètement aléatoire, une chaîne de caractères qui a l'air complètement aléatoire, en fait, elle commence par une longue suite de zéro. Donc, c'est difficile d'obtenir une empreinte comme ça, je dirais, si on l'applique à un message normal. Hein, on va tomber sur une chaîne de caractères qui n'est complètement aléatoire, donc pas de zéro les uns à la suite des autres. Dans Bitcoin, on fait ça comment ? On prend en fait, c'est pas appliqué au message, mais à des blocs de messages. Parce que dans Bitcoin, on fabrique une nouvelle page de transaction toutes les 10 minutes. Donc c'est un grand livre comptable dans lequel on fabrique des pages, on écrit des pages toutes les 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, on va mettre toutes ces transactions dans une même page et on va déjà les compresser. On va prendre l'empreinte de toutes ces transactions. Et dans un deuxième temps, le bloc de transactions, on va faire constituer une entête de ce bloc avec ses empreintes de transactions. Et on va ajouter à cette entête, dans cette entête, un compteur. Et on va faire tourner ce compteur. Ce qui fait que l'empreinte de l'entête du bloc va nous donner une empreinte qu'on va faire varier avec ce compteur, et la preuve de calcul sera trouvée quand on a cette collision avec une suite de zéro. Donc ça, c'est la preuve de calcul cryptographique dans Bitcoin. Je l'ai fait rapide et court, donc vous comprenez que c'est un petit peu pointu.
Alors tu as écrit un livre pour
oui, parce que c'est plus facile à lire qu'à écouter à la radio, sans doute. Oui. Et donc le livre s'appelle le Bitcoin Book.
Voilà.
Il y a un livre un peu plus développé qui s'appelle Bitcoin Monnaie Libre aussi, qui est disponible sur lulu.com.
Oui. On va donner ton petit site.
Et mon
ton
site,
petit blog.
C'est e-ducat.fr.
Voilà, mais je le mettrai sur le podcast de toute
où
façon.
Où il y a les liens, effectivement, pour aller acheter le livre et éventuellement approfondir ces choses-là. C'est plus facile quand même.
Sur on donne un aperçu rapide, mais on y rentre quand même pas mal dans le détail.
Donc, ça, c'est les clés, les recettes, je dirais, qui permettent de faire fonctionner Bitcoin.
Ouais.
Après, le protocole a d'autres subtilités, mais c'est peut-être pas utile de rentrer dans ces subtilités. C'est un protocole, on va le dire, franchement, relativement complexe.
Ouais.
Mais si c'était simple, il y a longtemps qu'on l'aurait trouvé, si ça a mis autant de temps.
Ouais.
Parce que je rappelle quand même que la crypto asymétrique, c'est-à-dire les clés privées et clés publiques, ça existe depuis en gros le début des années 80.
Ah oui, au moins.
Voilà, 79-80, c'était l'invention de RSA et des premiers systèmes à clés publiques, clés privées. Donc on a mis en gros 30 ans hein, pour arriver à inventer Bitcoin sur cette base-là, sachant que là-dessus, on a greffé la preuve de calcul qui, elle, date des années, la fin des années 80.
Mais sachant qu'au début, on ne voulait pas forcément créer Bitcoin. Hein, c'est qu'on a créé le principe.
Il y a quelqu'un qui a voulu résoudre ce problème de gérer une base de données de transactions en mode pair à pair.
Ouais.
C'est ça l'objectif de l'invention, c'est bien ça.
Ouais.
Comment je gère une base de données de transactions de pair à pair de manière complètement sécurisée.
Mmh.
Et il est arrivé, il a pris tous ces ingrédients qui étaient sur la table depuis effectivement plusieurs dizaines d'années et il les a mis ensemble. Donc c'est ce côté un peu génial, effectivement, qui a bluffé tout le monde quand c'est sorti sur une mailing list hein, de cryptographie. Tout le monde peut s'y inscrire, mais en l'occurrence, c'est des cryptographes qui discutent. Hein.
Ouais.
Et il y a quelqu'un, on dit un jeune homme, je ne sais pas, c'est peut-être un groupe de gens qui intervenait.
Donne son nom,
Satoshi Nakamoto.
Voilà.
Donc,
on ne sait pas
si c'est une personne ou plusieurs personnes.
C'est comme Bourbaki à l'époque, qui était un groupe de mathématiciens, ça se trouve, c'est un groupe de développeurs, voire même un groupe de banquiers. En fait, on n'en sait rien, on ne sait pas qu'il y a derrière.
Alors, banquier, ça m'étonnerait, parce que c'est pas des mathématiciens ou des cryptographes.
Il y a quand même pas mal de mathématiciens de la banque. Hein. Il faut se méfier.
Oui, mais quand tu dis banquier, alors c'est un autre. C'est pas, ils n'ont pas un métier.
Financier.
Ceux qui ont un métier, c'est les mathématiciens à ce moment-là.
Ouais.
Donc.
Des mathématiciens formés au métier de la monnaie, quoi. Formés au métier de
mais
la
en l'occurrence, franchement, j'en doute. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui avait envie du challenge, de résoudre un challenge. C'est un peu
d'accord.
comme le grand théorème de Fermat. Il y avait un problème qui était sur la table depuis longtemps, depuis donc l'invention des clés privées, clés publiques, et il y est arrivé. Hein, donc.
Alors, il nous reste, pour finir cette deuxième partie, il nous reste que quelques minutes, on va enchaîner. Donc, depuis le début de la déclaration de cette chaîne, c'est-à-dire depuis 2008, ce fameux Nakamoto, en fait, a démarré sans doute avec lui le premier client, parce qu'au départ, il fallait bien qu'il y en ait un.
Oui, il a démarré, en fait, il a quasiment codé la chose avant de la spécifier. Hein. C'est-à-dire, effectivement, le papier, quand on lit le papier, il fait 8 pages, donc effectivement, il est assez succinct. Et on voit bien qu'il était... Le vrai problème, c'était de coder, en fait, ce protocole, parce que il est, comme on l'a dit, assez complexe, il y a plein de subtilités dedans, et c'est la force, le succès, en fait, de Bitcoin, c'est quoi ? C'est la capacité qu'ont eu les développeurs, et des développeurs, à commencer par Satoshi, de démarrer le réseau en 2009 sur la base de cette idée géniale, et je dirais tellement géniale que finalement, il n'y a pas de spécification. Hein. Il y a des spécifications qui sont construites a posteriori.
Ça tombe comme ça, quoi.
Et en gros, si on essayait aujourd'hui de faire une spécification et de développer sur cette base-là, on produirait sans doute un logiciel qui ne marche pas. donc c'est ça qui est intéressant, c'est en gros 15 000 lignes de code C++ qui aujourd'hui sont maintenues et qui sont ce qu'on appelle une implémentation de référence. Et ça marche comme ça depuis 2009.
C'est du C++ ?
Oui, il y a eu d'autres implémentations depuis, mais il y a une implémentation de référence. C'est ça aussi qui fait le succès, c'est-à-dire qu'on peut tester finalement si ça marche ou pas.
Alors, je voulais en venir maintenant à la quantité. Donc ça part du premier client qui le met finalement en ligne, il se connecte, il attend que d'autres clients se connectent, et dès qu'il y a plusieurs clients connectés entre eux, pouf, ça commence à générer des bitcoins. Et alors, on part de 0 bitcoin au début, en 2008.
Le premier bloc, la première page de transaction, finalement, a été écrite par Satoshi. Hein, donc, effectivement, au début, tu peux mettre tout seul, puis tu peux fabriquer des pages tout seul. Hein, évidemment, l'intérêt, c'est qu'après, d'autres se connectent et rentrent en compétition, finalement, pour écrire les pages, puisque écrire une page, c'est ce qu'on appelle un privilège d'écriture dans une base de données. Donc, il faut résoudre cette fameuse preuve de calcul pour écrire la page. Le réseau, plus il grossit, plus ça devient difficile d'écrire des pages, puisqu'il y a de plus en plus de compétition pour écrire la page. Et aussi, plus il devient sûr, puisque finalement, plus ça devient difficile de réécrire l'historique. Hein, plus la preuve de calcul est difficile à trouver, parce qu'elle résulte d'une compétition, bah, plus le réseau devient... Et ce qu'on peut observer dans les indicateurs du réseau, c'est qu'effectivement, la puissance de calcul, la difficulté donc, d'écrire une page est croissante.
Bien sûr.
Très forte croissance depuis.
Ça se trouve, donc, on n'arrivera jamais donc, au bout de la totalité, parce qu'en fait, la complexité sera incommensurable.
Et surtout, ça veut dire que la sécurité du réseau augmente fortement, et c'est ce qui fait aussi son succès aujourd'hui.
D'accord. Alors, et aujourd'hui, donc, on est à combien de bitcoins générés ?
On est un peu plus de la moitié, puisque tous les 4 ans, finalement, on divise par 2 la quantité de bitcoin qui est créée dans chaque page. Hein. Donc, au début, c'était 50 bitcoins. 4 ans après, on est passé de 50 à 25 bitcoins toutes les 10 minutes. Donc dans chaque page, il y a ce qu'on appelle une transaction. En haut de la page, en gros, il y a ce qu'on appelle la transaction de génération qui rémunère celui qui a trouvé la page, enfin celui qui a écrit la page, donc qui a trouvé la preuve de calcul. Et tous les 4 ans, on va diviser cette quantité par 2, ce qui nous donne une suite arithmétique, enfin une suite géométrique même, qui va converger vers 21 millions de bitcoins au maximum. Et donc, ce qui veut dire qu'à l'issue de la première période, on a créé la moitié de la quantité, donc 11,5 millions. Donc aujourd'hui, à 5 ans, au bout de 5 ans, on doit être autour de 12.
Oui, on a passé la moitié. Quoi. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que les bitcoins, non, ils sont pas datés une fois qu'ils ont été créés?
Tu peux dater chaque bitcoin de ça, puisque tu peux remonter à sa transaction de génération.
D'accord. Alors pourquoi
tu peux faire l'historique de chaque bitcoin jusqu'à sa transaction de génération. Donc chaque bitcoin peut être daté.
Pourquoi ils ne considéreraient pas dans ce cas-là que les derniers auraient plus de valeur relative que les plus anciens, puisque leur preuve de calcul est plus difficile? Ça pourrait se faire aussi.
Ça pourrait se faire. Sauf que c'est le marché qui décide, donc tu ne peux pas le décréter. Voilà, c'est juste ça. Ça ne pourra jamais être décrété, puisque dans la logique de Bitcoin, il n'y a pas de gouvernance politique.
Pour que le marché le décide, il faut bien que des individus décrètent quelque chose. Parce que, par exemple, c'est parce que je décrète que je m'intéresse au Bitcoin, que je m'y connecte, que je lui donne la valeur. Par exemple, moi, je ne m'y connecte pas, donc je ne lui donne aucune valeur.
Ouais.
Donc moi,
je
n'accepterai pas des paiements en Bitcoin, etc.
Ouais.
C'est mon choix.
Ouais, ouais,
et je considère que c'est tout à fait légitime pour d'autres individus de le faire. Mais moi, j'ai de bonnes raisons de ne pas y adhérer.
Oui.
Mais je respecte le choix d'autres individus de faire autrement.
Ouais.
Donc je pourrais décréter demain. Les derniers bitcoins générés, moi, je les considère comme étant plus chers. Si j'en ai, je dis, moi, je n'accepterai pas de t'échanger ce bitcoin-là généré en 2012 avec ton bitcoin à toi généré en 2005. C'est mon choix, je peux m'y tenir. Après que le marché y réponde ou pas, c'est notre problème des individus qui considèrent mon choix et qui adhèrent ou pas. Et je pourrais très bien construire mon client en disant, je trie mes bitcoins par date de création, donc je donne plus de valeur à ceux qui sont créés récemment qu'aux anciens. Et dans ce cas-là, je pourrais décréter mon propre champ de valeur, en fait, finalement. Après, effectivement, c'est le problème. Est-ce que les autres vont y adhérer ou pas?
Voilà, le problème, c'est que tu seras il faudrait convertir...
Le problème, c'est que seul au début, mais comme Satoshi était seul au début.
Voilà.
On est d'accord.
Mais voilà, j'encourage, de toute façon, on encourage les gens à ce qu'on appelle forquer le code, c'est-à-dire développer leur propre client, leur propre chaîne de blocs. Faire ce que Satoshi a fait en 2009, en début 2009 finalement. Tout ça reste possible puisque c'est un logiciel libre et il y a déjà des gens qui l'ont fait. Hein. Donc soyons clairs, il y a déjà des chaînes ce qu'on appelle des chaînes alternatives. Après, en tant que réseau, c'est vrai que Bitcoin domine les autres réseaux du même type, je dirais très largement. Et en tant que réseau de paiement, je ne crois pas qu'il sera vraiment challengé. Par contre, comme système monétaire, pourquoi pas. Mais je crois que il y a un côté expérimental aussi à démarrer une chaîne alternative. Je crois plus à des alternatives radicalement différentes, comme celle que tu défends, Stéphane, qu'à des sortes de clones. J'attache peu de valeur aux clones. Je crois qu'il faut innover. Je pense qu'il vaut mieux innover sur des concepts vraiment différents. Sinon, on est dans le MeToo.
Oui, par exemple, juste pour finir, après on va attaquer la dernière question de cette deuxième partie, mais OpenUDC fonctionne aussi sur des signatures de clés, etc. mais toutes les monnaies sont créées sur la base des individus.
Voilà, donc c'est radicalement différent. C'est pour ça que c'est intéressant par rapport à Bitcoin. Faire des clones de Bitcoin, honnêtement, ça me laisse un peu sceptique.
Oui, oui, tout à fait. Il vaut mieux créer. Oui, il faut que les concepts soient vraiment pensés à la base.
Voilà, parce que c'est comme ça qu'on a la complémentarité et donc l'utilité économique.
Exactement. Alors, on arrive à un point très important aussi sur l'explication du fonctionnement de Bitcoin. On a parlé technique. Bon, c'est assez technique. On a donné des liens pour avoir plus d'informations. On a parlé de l'historique, 2 milliards d'euros aujourd'hui pour 12 millions de bitcoins générés depuis 2008, de comment ça s'est créé au début, Satoshi Nakamoto et compagnie, bon bref. Et on arrive à un point qui, moi, me semble très important aussi, c'est évidemment l'expression de ce que j'appelle la quatrième liberté économique, dans les quatre libertés économiques que j'ai exprimées, qui est la liberté d'échange dans la monnaie, qui ne veut pas dire, comme certains l'ont interprété très très mal, comme étant on doit avoir de la monnaie d'abord, on a droit à la monnaie, non, c'est pas la question, ça c'est une autre problématique. Non, la quatrième liberté économique, c'est de pouvoir échanger dans la monnaie, c'est-à-dire de pouvoir exprimer mes prix, mes transactions et toute ma comptabilité dans l'unité monétaire que j'ai choisie. Ouais, ouais. Par exemple, si je ne fais qu'exprimer le bitcoin en euros, finalement je reste toujours accroché à l'euro en quelque sorte.
Ouais, en fait, c'est juste un moyen de paiement.
C'est juste un moyen de paiement ou une valeur que j'exprime. Si je veux utiliser le bitcoin comme monnaie, je peux le faire, là, je peux appliquer la liberté économique comme je pourrais le faire, y compris avec des actions Apple, y compris avec n'importe quoi, avec du métal, avec de l'or, je pourrais le faire. Et d'ailleurs, ceux qui défendent l'étalement devraient le faire, mais ils ne le font pas, bizarrement. Il y a toujours cette problématique qui est mal comprise, en fait. C'est de dire, voilà, non, j'utilise le bitcoin, donc je vais chiffrer tous les prix en bitcoin. Je peux le faire, parce qu'il y a un taux de change.
Oui.
Donc, il suffit que je dise, cette maison, ben, elle vaut tant d'euros, donc elle vaut tant de bitcoin. Et donc, ceci vaut tant de bitcoin, etc. Et alors, tu me dis, et on démontre, expérimentalement, encore une fois, l'expérience a toujours le dernier mot en science. Alors au début, ils n'arrivaient pas à comprendre ça avant 2008 jusqu'en 2008, mais maintenant l'expérience est faite, il faut toujours... Alors regarde, il y a une expression qui dit « heureux celui qui croit sans avoir vu », parce que ça veut dire qu'il comprend les choses avant qu'elles arrivent, mais on l'avait compris nous bien avant que ça arrive, et aujourd'hui il y a des magasins 100% Bitcoin.
Oui.
Alors on va en citer un.
Alors 100%, c'est une façon de parler, parce qu'ils ne vont pas forcément refuser un paiement en euros par Visa Mastercard, mais ils vont proposer en tout cas un paiement par le réseau Bitcoin, et ils vont, comme tu dis, faire ce qu'on appelle du double affichage, c'est-à-dire qu'ils vont afficher un prix en euros, et sa contre-valeur en bitcoin, donc on a une idée effectivement de ce qu'on peut acheter avec un bitcoin, c'est plus facile effectivement. Si on se souvient bien, quand on est passé du franc à l'euro, ça s'est passé aussi, il y a eu une période de double affichage où les commerçants affichaient des prix à la fois en francs et en euros. Dans le cas du franc et de l'euro, c'était des monnaies très, très semblables, parce que c'était des monnaies centrales qui, le passage de l'une à l'autre, n'a pas évidemment apporté grand-chose, si ce n'est l'enrichissement encore plus grand du secteur financier. Mais dans le cas de bitcoin, on a la possibilité aussi de faire du double affichage.
Donc là, je suis par exemple, on est connecté sur le net, et je suis devant un magasin, bon, je ne fais pas la publicité particulièrement, mais c'est pour démontrer la quatrième liberté économique, qui se nomme justement, donc achanet.pro, bon, peu importe, et il nous propose des clés USB, des barrettes de mémoire,
du matériel informatique,
etc., et il affiche ses prix en bitcoin, voilà, donc il applique la quatrième liberté économique, c'est aussi simple que ça. Donc on a la clé USB à 0,22 Bitcoin, on a la barrette de mémoire à 0,37 Bitcoin, on a on a tout un tas, enfin
tout son catalogue,
il y a des vidéos projecteurs, etc. Et ils sont notés en Bitcoin, donc on peut faire cet achat en Bitcoin.
Voilà, mais comme je disais, il accepte encore évidemment les moyens de paiement traditionnels. L'un n'empêche pas l'autre, c'est ça une monnaie complémentaire, c'est qu'on a une liberté de plus, mais on perd aucune liberté.
Bien sûr. Mais c'est ce que font les grandes entreprises internationales finalement, c'est de pouvoir évidemment afficher leur prix dans n'importe quelle monnaie. Parce qu'évidemment, si font des transactions avec les Américains ou avec les Chinois ou avec les Russes ou avec je ne sais qui...
Bah, Amazon est un bon exemple, effectivement, suivant son adresse, on va avoir des prix affichés en dollars et en euros ou en euros. Et dans le cas de Bitcoin, comme c'est une monnaie internet, a priori, tout le monde va la comprendre. C'est ça son avantage, c'est que quel que soit un Japonais comprend la même chose par rapport à un Bitcoin qu'un Européen ou un Américain.
Voilà, donc ça c'est un facteur important qui ne suffit pas, selon nous, selon les quatre libertés économiques, mais qui est quand même un des facteurs très importants, c'est que si je veux choisir un système monétaire, bon, quelles que soient ses qualités par ailleurs, eh bien, il faut que j'applique aussi la quatrième liberté économique. Il ne faut pas que je me concentre sur la seule valeur d'échange de cette monnaie pour la valoriser dans une autre monnaie. Dans ce cas-là, effectivement, on ne fait que la transformer en valeur. Mais si je veux l'appliquer comme monnaie, bah, il faut aussi que j'affiche tout dans cette unité-là et qu'effectivement, qu'elle puisse être transformable en une autre unité. À la limite, c'est qu'un problème informatique simple. Je prends des lunettes et normalement, un prix en dollars, en euros, en yuan, ou en ce que je crois, je peux le mettre en bitcoin. Et l'inverse est vrai aussi.
Ouais.
Donc, ce n'est qu'un changement de référentiel, principe que l'on connaît depuis quand même quelques siècles, en mathématiques ou en physique. Voilà, donc fin de cette deuxième partie consacrée donc au fondement de Bitcoin, et puis on va passer à notre dernière partie, juste après notre seconde pause musicale, Pierre, toujours avec une musique libre, et on se retrouve donc juste après. Voilà, de retour dans Monnaie Libre, toujours avec Pierre Noisin, toujours là avec nous, Pierre.
Oui, Stéphane.
Alors, on a vu dans notre première partie, je vous rappelle, hein, pour ceux qui étaient allés faire une petite pause en écoutant notre musique, la première partie, on avait donc expliqué la genèse du Bitcoin, notamment par rapport à la critique du système monétaire officiel, le principe de P2P, le principe aussi de pouvoir le considérer comme une valeur, pas forcément comme une monnaie, là aussi c'est un choix de dire qu'on la prend comme monnaie ou pas. le fait de dire qu'elle est libre ou pas, ça dépend du paradigme de liberté que vous choisissez, qui n'est pas forcément celui de la théorie relative de la monnaie, qui peut être un autre paradigme, pourquoi pas. Et enfin, on a vu dans la deuxième partie un peu l'explication un peu technique, bon, qui est très compliquée, on l'a vu, mais qui repose sur des fondements mathématiques bien pensés, qui existent depuis 30 ou 40 ans, et qui sont appliqués aujourd'hui dans le principe des clés privées et publiques, quelque chose qu'on commence à connaître sur Monnaie Libre, puisqu'on en parle aussi dans OpenUDC, et que c'est un phénomène qui va grandissant et qui permet d'assurer quand même une sécurité à tout un tas de transactions, et y compris aujourd'hui qui commence à être utilisé sur le net lui-même, sur le web, pour repérer par exemple des dépôts de logiciels, ou même simplement la confiance que l'on peut accorder à un site web. Alors, on arrive à notre dernière partie, et ça va être assez philosophique finalement, on va questionner le paradigme du Bitcoin en tant que principe, je dirais, monétaire potentiel, notamment, alors évidemment d'un point de vue de la possibilité pour chaque individu finalement d'être créateur de monnaie. En quelque sorte, on peut considérer que la communauté des personnes, des individus qui ont choisi de générer le Bitcoin, de l'utiliser, de le maintenir, que ce soit d'un point de vue code logiciel, mais aussi d'un point de vue d'utilisateur, puisqu'on l'a vu aujourd'hui, c'est que l'utilisateur du Bitcoin participe du réseau, participe de l'existence de cette monnaie, eh bien, c'est cette communauté-là, finalement, d'un point de vue de ceux qui n'y sont pas, et ceux qui n'y sont pas dans l'instant aujourd'hui, mais évidemment ceux qui n'y seront pas, toujours pas, en 2050, et qui vont se poser la question « je le rejoins ou pas », évidemment, ils peuvent se dire « mais je peux utiliser le Bitcoin, pourquoi pas ?» Dans ce cas-là, il faut que je leur donne quelque chose en échange, parce qu'ils ne vont certainement pas m'en donner comme ça, quoiqu'il peut y en avoir des dons aussi, ça peut exister. Mais je peux aussi me dire, mais puisqu'ils l'ont fait, pourquoi je ne le ferais pas moi-même? Alors tu avais fait d'ailleurs un post en disant, mais finalement le Bitcoin n'est pas forcément anti-génération, puisque une nouvelle génération pourrait générer sa propre chaîne. Hein, donc oui. Effectivement, on peut considérer ça, c'est-à-dire que les générations des hommes, des jeunes de 20 à 25 ans, on peut considérer qu'ils ont généré leur Bitcoin de 2008 à 2013, et puis ceux qui sont entre 20 et 25 ans aujourd'hui, c'est pas les mêmes, bien sûr, et ils vont se dire « pourquoi pas nous ?» Donc oui. ils peuvent se générer une nouvelle chaîne, en fait. Oui.
Alors, tout à fait. Et ce qui est important de réaliser, c'est qu'en fait, il y a pas mal de gens qui réfléchissent encore dans la boîte du monopole monétaire. C'est-à-dire qu'ils envisagent une monnaie que comme une sorte de monopole qui est imposé, etc. Ma vision du futur proche, c'est pas ça. C'est que dans un monde numérique, on a différents systèmes de paiement, en fait, qui sont des systèmes monétaires. Alors, quand on dit qu'un système monétaire, c'est d'abord un système de paiement, on soulève tout de suite des objections parce que c'est réducteur, parce qu'on n'a rien compris à ce que c'est que la monnaie, etc. etc. Mais à la base, quand tu dis qu'on adopte une monnaie, je ne sais pas, parce que finalement, aujourd'hui, on n'adopte rien du tout, on nous impose l'usage d'une monnaie. Par contre, on a un choix entre différentes modalités de paiement. Et dans le cas de monnaies qui sont convertibles les unes entre elles dans un monde numérique, les monnaies sont, en tant que médium d'échange, sont donc instantanément convertibles entre elles, quelles qu'elles soient. Donc OpenUDC sera convertible avec Bitcoin sera convertible avec l'euro. Il faut s'habituer, il faut avoir cette vision qu'on aura une sorte de notre ordinateur, parce qu'on n'aura même plus besoin de le regarder, hein. Il aura une vision, lui, des taux de conversion. Donc en fait, quand tu vas payer quelqu'un d'un montant, ce montant, il pourra être exprimé, comme tu le disais, dans n'importe quelle devise ou monnaie, finalement, donc OpenUDC, Bitcoin, Euro, etc. Et finalement, le choix que toi, tu vas faire, c'est pas de quelle monnaie tu utilises, c'est le moyen de paiement, en fait. C'est-à-dire que toi, tu auras adopté, je sais pas, un porte-monnaie OpenUDC qui te permettra de payer un marchand avec cette monnaie. Mais au bout du bout, ce moyen de paiement, finalement, sera... C'est le marché, là, pour le coup. C'est-à-dire le nombre d'utilisateurs et le nombre de marchands qui adoptent ce moyen de paiement qui va déterminer son succès. Et de toute façon...
On en revient donc à la valeur fondamentale de l'individu lui-même,
voilà,
comme base de malheur.
Donc le grand projet...
C'est pas la quantité de machines interconnectées, mais le nombre d'individus.
Voilà, de toute façon, au bout d'un moment, c'est le nombre de transactions réelles dans la vraie vie, avec des vrais biens et services, et c'est le nombre d'utilisateurs, et c'est le nombre de marchands. C'est ça qui est le juge de paix d'un système de paiement, et finalement donc d'un système monétaire avec tout le ronflant qu'on peut accorder au mot monnaie, qui encore une fois pour moi est plutôt un anti-concept, c'est-à-dire quelque chose qui un mot que j'évite d'utiliser en fait. Je préfère parler de système monétaire parce que ça remet les choses à leur place. Un système monétaire, c'est d'abord un outil pour l'économie, ça ne doit en aucun cas être un outil de moyen de contrôle des gens. Donc les gens ont le choix d'utiliser plusieurs systèmes libres. En l'occurrence, la convertibilité de ces différentes monnaies numériques, je préfère parler aussi de monnaie numérique que de monnaie virtuelle, parce que toutes les monnaies sont virtuelles aujourd'hui, y compris et surtout l'euro. C'est sans doute la plus virtuelle de toutes, hein, puisqu'elle est appuyée sur une création ex nihilo. Même s'il y a un cadre juridique très fort, très contraignant autour, il peut s'effondrer du jour au lendemain. Et on travaille tous à ce qu'il change, en tout cas, ce cadre juridique. On aura une convertibilité, et du coup, la notion d'adoption d'une monnaie, en fait, va être plutôt l'adoption d'un moyen de paiement, plus ou moins communautaire, mais qui, de toute façon, sera connecté à d'autres réseaux de paiement. Hein, donc, par le biais de cette convertibilité.
De toute façon, on ne peut pas empêcher, par exemple, imaginons que le système OpenUDC soit en fonction. Alors, OpenUDC, lui, crée la monnaie sur la base des individus et considère toutes les générations comme égales devant la création monétaire, puisque elle va finalement donner à chaque génération d'individu le même pourcentage de monnaie.
Voilà, il y a un bon principe derrière, il aura forcément une mais audience.
On peut très bien imaginer que deux tenants d'OpenUDC distants se payent en OpenUDC en passant par le Bitcoin. C'est-à-dire
oui,
qu'en fait...
Mais surtout, ils ne vont pas vouloir s'interdire de payer un marchand qui, lui, accepte peut-être que Visa ou Mastercard ou Bitcoin. Ils ne vont pas s'interdire de payer ce marchand s'ils ont envie d'acheter chez ce marchand.
Mais même, avoir une forme d'anonymat en le faisant par le Bitcoin. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont échanger leur UDC en Bitcoin. Oui. Il y aura très certainement, évidemment, un taux de change. Il y en a qui voudront avoir ces... En tout cas, il y aura un prix. Il y a toujours un prix. C'est-à-dire qu'il pourra le considérer haut ou bas, le prix, mais il y aura un prix.
Sur une monnaie numérique, de toute façon, si elle n'est pas... Il faut qu'elle soit facilement transférable et facilement convertible, sinon on est dans un...
Et puis surtout qu'elle soit limitée à un instant T par un certain type de règle. Bitcoin, c'est simple, c'est un maximum 21 millions. Donc on sait que par exemple 5 millions de Bitcoin, c'est beaucoup. Parce qu'il y en a 21 millions, donc on le sait. Donc là c'est pareil, même si on en crée chaque année un peu, à chaque instant c'est limité. Ouais. Et on sait que dans les 20 ans qui viennent, on n'aura pas plus de temps. Ouais. Donc de toute façon, la limitation n'implique pas la non-création. C'est-à-dire la création d'une quantité n'implique pas l'infinité. Il n'y a pas ces deux notions.
C'est infiniment divisible. Une monnaie numérique, comme Bitcoin en tout cas, est infiniment divisible. Ouais. Même si aujourd'hui on a une limite pratique à 8 décimales après la virgule, cette limite peut être levée par une nouvelle version du logiciel d'implémentation de référence, qui est une nouvelle version qui sort régulièrement, hein, comme dans n'importe quel logiciel libre. Il n'y a pas de limite. Cette limite de 21 millions n'est pas limitante, en tout cas en termes économiques, pour une économie en croissance. Hein, c'est contrairement à ce que là encore on est.
Oui, alors ce qu'on a démontré aussi d'ailleurs, effectivement, d'un point de vue relatif, c'est que une quantité est toujours intéressante en termes relatifs. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la quantité relative et non pas la quantité absolue. Effectivement, c'est la notion d'inflation ou de déflation, en fait, c'est une fausse notion. Parce que la seule vraie notion qui compte, c'est finalement, si je crée de la monnaie, que j'en crée trop par exemple, pour une économie, c'est de savoir où je mets cette création. Et est-ce que j'avantage les individus dans l'espace? C'est-à-dire que si je donne les 10% de monnaie en plus à 3 individus, ben c'est ces 3-là qui vont bénéficier des prix les plus bas au premier moment où ils vont acheter, et ils auront fait monter les prix au détriment de ceux qui n'ont pas reçu ces 10%.
Tu as tout à fait raison, la topologie du réseau est beaucoup plus importante que la mesure de l'inflation, mesure qui d'ailleurs est très contestable, hein, puisqu'elle se fait sur un panier de prix qui est arbitraire.
Oui, et puis en plus c'est faussé de façon énorme par le fait que le panier évolue en fonction des achats. Mais alors si j'achète de moins en moins, on va mettre le panier sur de moins en moins de choses.
On nous explique qu'il n'y a pas d'inflation parce qu'on achète d'autres choses en fait aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus payer celle qu'on se payait.
Oui,
on revient au caractère un peu frauduleux. Hein,
bien sûr, c'est frauduleux. Ce qui compte, c'est la masse monétaire.
Statistiques qui nous livrent des prix et des chiffres surtout manipulés. Donc c'est assez grave et c'est la conséquence d'une situation de monopole. Ces mécanismes de propagande parce que le monopole ne peut vivre que s'il y a une propagande. C'est une logique totalitaire.
Hein. Oui, et puis c'est une logique qui est fausse puisque dans le temps, bien sûr, les valeurs ne sont pas égales d'une époque à l'autre. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas de baguette de pain au XIIIe siècle. Donc comment voulez-vous comparer l'inflation entre le XIIIe siècle et le XXIe siècle? alors que toutes les valeurs échangées et produites n'ont rien à voir. Donc, évidemment, alors ce qui est vrai entre le XIIIe siècle et le XXIe siècle est vrai de 2013 à 2014. Simplement, ce n'est pas toutes les valeurs d'un coup qui changent, c'est un petit peu de valeurs nouvelles et puis un petit peu moins de valeurs anciennes. Voilà. Et, mais au bout de certains temps, ça finit par changer totalement toutes les valeurs. Donc, on ne peut pas véritablement comparer les valeurs d'une époque à l'autre. Par contre, on peut dire de combien de monnaies on a dans l'économie. Ça, oui. Ouais. Ça, on peut le dire. Et on peut dire aussi combien dans l'économie.
C'est la seule chose qui est objective.
Voilà. Et par personne. Ouais. C'est ce que dit la théorie. Mais ouais, c'est le seul référentiel valide, ouais, in fine.
En tout cas, et en plus, la mesure de l'inflation, en tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'elle peut être manipulée par la constitution du panier et plein d'autres facteurs. Donc, et ce qui est vrai aussi, et ce qu'on a souligné, c'est comme tu le dis, c'est la topologie de la distribution, puisqu'effectivement, les effets de l'inflation vont être beaucoup plus forts sur des populations qui ne peuvent pas s'en prémunir par l'investissement.
Ouais.
Que, donc, de toute façon, cette mesure est hautement contestable.
Ouais, exactement. Exactement. Donc en fait, il n'y a pas de contradiction, si vous voulez, donc in fine, il faut bien comprendre, à utiliser le Bitcoin comme une valeur, du moment qu'on utilise une autre monnaie, ou à utiliser le Bitcoin comme monnaie, du moment qu'on considère les autres entités comme des valeurs. En fait, si, donc en fait, une monnaie, j'ai presque envie de dire, c'est quand même l'élément central parce que l'individu, j'ai envie de dire, alors qu'il soit suivi ou pas, ça, à la limite, il s'en fout. C'est-à-dire que celui qui décide tout seul d'utiliser les talons or, il peut le faire. Il peut chiffrer tous les prix en or, puisque l'or a toujours un taux de convertibilité, il peut faire sa comptabilité en or, etc., etc., etc. Bon, mais très bien, après qu'il soit suivi par les autres ou pas, n'empêche pas pour lui de le faire. Alors après qu'il fasse ses choix en fonction de la comptabilité qu'il fait en or, ça le regarde. Après, à la limite, qu'il soit bon ou pas pour lui, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Donc voilà, il n'a pas imposé son point de vue aux autres, en fait, finalement.
Absolument.
Et on rejoint ce point de vue relativiste de la TRM, qui est de dire, mais chaque individu est libre de choisir son système monétaire, est libre d'échanger dans la monnaie. Alors après, selon les autres libertés économiques et les principes de la relativité, la TRM dit qu'une monnaie véritablement libre devant les individus doit pouvoir se créer sur la base des individus. Bon, mais ça, c'est ce que dit la TRM, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de la suivre. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre aussi, que j'ai fait dans un dernier post, c'est que voilà ce que dit la TRM. La TRM ne dit pas que c'est la vérité absolue, il n'y en a pas, puisqu'elle est relative elle-même, elle le dit. Elle serait incohérente, une théorie relative serait incohérente en disant mon point de vue est le point de vue absolu. Non, par contre, si on veut suivre une monnaie qui respecte ses libertés, alors on adopte une monnaie de ce type-là, mais on peut utiliser le Bitcoin comme valeur. Donc du coup, il n'y a, ouais, pas de contradiction. Il ne faut pas rejeter l'innovation des autres sous prétexte qu'on croit que son innovation est meilleure. Donc...
Absolument. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la notion d'adoption d'une monnaie, en fait, c'est aussi l'adoption d'un moyen de paiement. Hein. Donc là encore, replacer ce que c'est qu'une monnaie, c'est un système monétaire. Donc ça n'est qu'un système, ça n'est qu'un outil. En l'occurrence, le but politique, à mon sens, de tout ça, c'est de casser le monopole, c'est-à-dire d'introduire une diversité, d'éduquer le public au logiciel libre.
Très important, bien sûr.
De changer de paradigme, de l'hypercompétitivité,
oui,
parce qu'effectivement, je parle parfois de logiciels libres autour de moi, des hommes d'affaires, on va dire, et je sens le désarroi, hein, de ces gens-là par rapport à quel est le business model, comment je gagne de l'argent avec le logiciel libre. Alors, je leur explique qu'on peut gagner de l'argent avec le web, et pourtant, le web, c'est bien le logiciel libre.
Par exemple, vous créez du Bitcoin.
On peut gagner de l'argent avec des services sur le réseau Bitcoin, on peut gagner de l'argent avec des services sur le réseau email.
Oui.
Donc c'est pas incompatible, mais on sent bien le désarroi, hein, et ils me demandent mais comment les développeurs gagnent leur vie, etc. Ben, ils y arrivent, ils ont effectivement aussi des formes de rémunération non monétaires, hein, ils ont aussi la reconnaissance des pairs, des choses comme ça.
Donc, tout simplement, le problème, c'est que on peut leur répondre ça aussi, le problème c'est que la question de la rémunération sous-entend d'avoir défini préalablement et en premier lieu dans quelle monnaie. Parce que
ouais, non, mais à tout à fait. Puisque,
si
en l'occurrence, si c'est la reconnaissance des pairs,
oui,
je dirais que c'est une rémunération, par exemple, à moyen terme ou à long terme. C'est-à-dire que ça veut dire que je vais pouvoir peut-être changer d'emploi parce que je suis du coup venu connu, parce que j'ai fait quelque chose dans le domaine du libre et je vais pouvoir avoir plus d'options.
Ou je peux
si je n'avais pas participé à ce logiciel libre,
oui,
si j'étais resté chez un employeur privé sur un logiciel privatif,
oui,
qui m'aurait donné pas d'autre débouché que ce logiciel privatif.
Ou bien j'utilise une monnaie qui reconnaît chaque individu comme étant créateur de valeur. Donc si je fais ça, bah, je suis rémunéré de fait pour ce que je crée sans que vous ayez à me juger.
Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on aurait envie de se faire payer dans la monnaie, dans une monnaie choisie, et non
bien
pas
sûr
dans une monnaie imposée. Donc ça, c'est une,
exactement,
liberté fondamentale, comme tu dis,
exactement,
qu'il faut gagner. On la gagnera que si on propose des systèmes alternatifs différents donc des monnaies centrales.
Exactement. Mais déjà, on peut dire, même bien sûr, si Bitcoin, il faut le voir dans toute sa dimension, mais déjà le fait de choisir de se payer en Bitcoin, vous payez en Bitcoin, déjà on exprime une liberté qui jusqu'ici n'était pas visible, n'était pas comprise. Alors, mais c'est ce que font les systèmes d'échange locaux depuis des siècles. Alors, parce que c'est pas nouveau. Oui, je veux dire, le système d'échange local en tant que principe, et le Bitcoin peut être vu comme ça, mais s'il a des caractéristiques tout à fait exceptionnelles par rapport à cette. C'est un saut. Bien sûr.
Alors, il est local au sens d'Internet, c'est-à-dire si on considère Internet comme une région ou comme un pays, effectivement, il est local. C'est une monnaie locale, mais à l'échelle d'Internet. Là, le territoire, c'est Internet. Donc ça, c'est important aussi par rapport aux partisans, souvent acharnés des monnaies locales. Considérer un peu Internet comme un pays aussi, comme une
territoire. Oui, ou la communauté des utilisateurs.
Sauf que le territoire n'est pas géographique, mais c'est pourtant un territoire.
C'est un territoire.
Là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est en train, de toute façon, de déconstruire des vieux concepts un peu figés, de société anonyme.
Et si on prend,
mais Pierre, et on déconstruit aussi la notion de territoire.
Mais Pierre, si on prend tout simplement le référentiel de la TRM, qui est de dire l'espace-temps que nous considérons dès le début de la TRM,
c'est ce que tu fais avec la TRM aussi.
C'est l'ensemble des individus.
Et tu revisites des sujets comme l'espace et le temps qui sont intégrés de manière assez statique, finalement, dans ces vieux concepts centralisés.
C'est-à-dire qu'il ne voit pas les points de l'espace comme étant mouvants, en fait. C'est-à-dire que les points de l'espace, si on considère que c'est les individus qui forment l'espace, on a un espace dont les points, si vous voulez, de définition ne sont pas figés comme dans la géométrie euclidienne ou même la géométrie différentielle. Ne considère pas, par exemple, les points de l'espace comme des entités qui bougent. Bon, si on prend les individus comme points de l'espace, on a quelque chose qui bouge. C'est-à-dire que les individus ne sont pas toujours placés dans le même ordre.
Les individus libres.
Voilà, ils ne sont pas placés dans le même ordre les uns par rapport aux autres.
Mais ça, c'est l'apprentissage de la liberté.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça que c'est subversif.
Ça fait tourner la tête.
Et c'est pour ça qu'effectivement, on n'en entend pas parler dans les grands médias, effectivement, parce que c'est subversif.
Ben oui, c'est subversif, mais j'ai presque envie de dire, et je pense que c'est très important, c'est qu'on pourrait même revoir les mathématiques et la physique sur ce principe. C'est-à-dire, pourquoi considérer l'espace-temps, par exemple, comme quelque chose dans lequel il y aurait des objets, plutôt de considérer que les objets de la physique, par exemple, seraient eux-mêmes les points de l'espace à considérer. À partir de là, c'est plus un espace dans lequel il y a quelque chose. Ce sont des points d'espace qui bougent dans le temps. Donc du coup...
Alors, pour revenir à des choses concrètes, parce qu'on parlait de se faire payer dans une autre monnaie, dans le cas de Bitcoin, il y a une motivation supplémentaire en ce qui me concerne, par exemple, de demander par exemple, un employeur de me payer en Bitcoin, c'est que je suis ma propre banque avec Bitcoin. Bitcoin, c'est une technologie une fois installée sur ton ordinateur, tu deviens ta propre banque. Or, ça me gêne personnellement que dans le cas d'un virement, qu'un salaire, par exemple, on m'impose que ce soit un virement bancaire sur un compte bancaire.
Oui.
Ce qui veut dire qu'en fait, mon employeur paye ma banque d'abord, puisque la banque devient propriétaire de mon argent, tu le sais, quand on a...
Oui, parce qu'en fait, elle veut.
Quand elle est sur un compte de dépôt à la banque, la banque en a la responsabilité, en fait, elle est légalement propriétaire. En fait, tu viens après lui demander à la banque de te rendre ton argent, en fait, quand tu retires l'argent de ton compte. Donc ça me gêne philosophiquement que mon employeur paye ma banque avant moi.
Ouais.
Et donc, j'ai envie de recevoir mon salaire directement chez moi. Et ensuite, seulement de décider si je veux le déposer à la banque, pour partie ou en totalité.
On comprend avec ce principe, une fois qu'on l'a intégré, que pourquoi ils essaient de faire en sorte que ça se fasse de cette façon-là.
Bien entendu, quand on a dit ça, on comprend les formes d'asservissement à laquelle on est soumis tous. Et quand je dis tous, c'est y compris les hommes politiques. Donc, ce qui veut dire qu'on est, dans une forme de démocratie altérée, inférieure, où effectivement, on a inféodé le pouvoir politique au pouvoir monétaire. Alors que beaucoup, dans l'esprit des gens, c'est l'inverse. Quand on écoute les gens, ils imaginent que c'est le pouvoir politique qui contrôle le pouvoir monétaire. Évidemment, c'est l'inverse. Hein. C'est le pouvoir monétaire qui a complètement pris la main. Le code monétaire et financier est une sorte de couvercle sur la démocratie. Et il est grand temps de changer tout ça.
Oui, alors c'est d'ailleurs un des points de priorité. Sur lesquels j'ai discuté ou j'ai essayé de discuter avec Étienne Chouard, tu sais, qui défend un changement de politique et tout. Mais je veux dire, bon, tu penses qu'il pense que c'est premier parce que si on change ça, alors on peut changer la monnaie, etc.
Je pense qu'il se trompe.
Mais
je pense
qu'il se trompe. Alors, je pense pas qu'il se trompe.
Il a raison dans ses propositions.
Il y a un autre point de vue par rapport à.
C'est la méthode et c'est l'ordre de priorité qui est faux. Qui est discutable, on va dire.
On ne sait pas lequel sera le plus efficace.
Mais en tout cas, s'il ne change pas le système monétaire, effectivement, il pourra faire ce qu'il veut, ce sera de la cosmétique. Alors, introduire le tirage au sort, C'est intéressant, comme le propose Étienne Chouard, c'est intéressant. Mais peut-être ça ne pourra concerner progressivement, enfin, que les premiers sujets, hein, comme la rémunération des élus, enfin, les trucs les plus évidents sur lesquels les élus ne peuvent pas s'exprimer ou ne devraient pas s'exprimer. Ouais. Effectivement, on doit introduire du tirage au sort, mais je pense que le changement sera à la fois plus rapide et plus efficace s'il implique aussi le système monétaire.
Tiens, mais on va donner un exemple pour expliquer que la priorité, c'est pas forcément dans ce sens-là. Tiens, Pierre, sur quelque chose qu'on connaît bien, puis ça fera un peu de pub et on sera content, c'est sur le jeu d'échecs. Tu sais très bien comment ça se passe depuis des années, depuis 30 ou 40 ans. Donc les échecs apprennent beaucoup de choses à beaucoup de monde. Hein. Ouais. C'est d'ailleurs un des premiers jeux qui ont été mis en ligne sur Internet, c'est pas par hasard, ça existe depuis au moins 1500 ans. Mais moi je pense que j'ai des éléments qui démontrent que peut-être c'est peut-être encore plus ancien que ça. Mmh. Peut-être même bien avant, genre 3000 ou 4000 avant Jésus-Christ, j'ai des éléments récents là, qui permettent de bon, c'est des ancêtres du jeu, hein, messieurs. Oui. Mais bon, le jeu d'échecs, comment se font les élections de la Fédération Internationale des Échecs depuis 30 ou 40 ans? Tu sais bien comment ça se passe. Chaque fédération a une voix, et le jour de l'élection, c'est des chèques qui circulent.
Oui, c'est des valises. Hein,
C'est-à-dire que, évidemment, c'est entièrement corrompu par la possibilité qu'a le plus riche des acteurs en place de payer les voix des petites fédérations. Ouais. Et voilà. Donc en fait, on voit bien que par ce biais-là, que le problème même de tirer au sort, c'est comment on pourra empêcher une assemblée de tirer au sort de se faire corrompre par l'argent si on ne maîtrise pas l'argent. Donc à un moment donné, si on ne choisit pas un système monétaire alternatif, je dirais, on pourra peut-être pas tout simplement choisir un système politique alternatif, parce que peut-être que la monnaie, in fine, a peut-être un code plus profond, plus essentiel que le système politique lui-même, de la même façon qu'en mathématiques, finalement, si on ne construit pas d'abord les entiers naturels, 0, 1, 2 jusqu'à l'infini, s'ils sont construits, il y a des axiomes, mais on ne peut pas faire tout le reste.
En tout cas, exactement. Moi, je pense que la liberté monétaire est fondamentale et est une condition essentielle de la démocratie, effectivement. Donc, tant qu'on n'y est pas, on est dans une forme de démocratie altérée que reconnaissent. Alors, c'est encore plus caricatural aux États-Unis, puisque tu sais qu'aux États-Unis, il y a la possibilité pour les entreprises de financer les partis sans limite. Hein. Donc, du coup, il y a une inflation phénoménale des coûts d'élection, ce que j'appelle les coûts d'élection, c'est-à-dire comment tu a réussi à avoir une présence dans les médias dominants qui permettent donc derrière d'être élu, ben voilà, c'est uniquement par l'argent. Donc là, c'est aux États-Unis, c'est devenu totalement caricatural et évident, et du coup, c'est intéressant parce que du coup, il y a un débat qui commence à naître autour de ça et qui se propage jusque chez nous. Mais faut pas se leurrer, chez nous, c'est exactement la même chose. On a suivi l'affaire Sarkozy, donc des fameux comptes de campagne qui révèlent les montants hein, qui sont en jeu. Donc on est sur des dizaines de millions d'euros. Donc quand on est sur des dizaines de millions d'euros, clairement il y a une dépendance de facto hein, de l'élu par rapport aux financiers parce qu'on ne trouve pas 10 millions d'euros dans ses économies si on est quelqu'un qui se présente à une élection. Donc ça veut dire qu'on est emprunteur, on est débiteur auprès du secteur financier. Donc on va dès lors décider en fonction des desiderata et à horizon de 5 ans en plus, donc évidemment sur une politique court-termiste. Donc il n'y aura pas de politique d'environnement, il n'y aura pas de politique de l'éducation, c'est-à-dire des objectifs de long terme, dans ces conditions-là. Et donc il n'y a pas de démocratie aujourd'hui en France, et ni en France, ni dans le monde occidental. J'ai coutume de dire qu'il y a deux organisations politiques qui domine le monde aujourd'hui, c'est le Parti communiste chinois et Goldman Sachs. Alors, ça fait sourire, mais c'est une plaisanterie, mais il y a un fond de vérité. C'est-à-dire que le vrai gouvernement, c'est le gouvernement Sachs, hein, ce qu'on appelle le gouvernement Sachs, qui domine le secteur bancaire et financier, qui du coup domine le monde politique dans le monde occidental. Et puis il y a le Parti communiste chinois qui domine, lui, dans sa zone géographique. Mais hors ces deux organisations, voilà, il n'y a pas de démocratie en réalité. La démocratie reste à inventer. Elle a des apparences. Hein. On a des apparences de démocratie, des signes de démocratie, comme l'élection, qui est une sorte de rituel démocratique. Mais une fois qu'on l'a dépouillée de son sens, il faut être lucide. Quoi. C'est juste un signe. C'est pas une vraie démocratie.
Ouais, c'est pas une vraie démocratie, et notamment parce que cette monnaie qu'on utilise, finalement, peut se créer à volonté par ceux qui en tiennent les manettes. Voilà. Ou arrêter de se créer quand ça arrange. Parce que c'est ça le problème en plus, c'est que les cycles, ils les maîtrisent. C'est-à-dire que s'ils veulent en mettre, ils en mettent. Et si quand les moments où on ne veut plus en mettre, on n'en met plus.
Tout à l'heure, les indicateurs ne veulent rien dire. Ce qui compte, c'est la proximité avec les serveurs centraux. Ouais. Donc dans une architecture centralisée, plus tu es proche du serveur central, plus tu gagnes. Ouais. Alors on peut d'ailleurs faire le parallèle avec le big data, hein, parce qu'on parle beaucoup de big data. En fait, la capture de données par les grands serveurs centralisés, Jaron Lanier a écrit là-dessus... des livres remarquables déjà, donc je ne fais que reprendre ses idées, mais fondamentalement, il explique très bien que plus on est proche du cerveau central, plus on va s'enrichir, donc c'est les fondateurs de Facebook, de Google, etc., les patrons de ces grands serveurs centralisés qui capturent des données,
ouais.
Mais qui appauvrissent le reste de la société. Hein.
Alors,
il démontre très bien qu'en fait, on lamine économiquement la classe moyenne, puisqu'il n'y a plus de retour. Hein.
Ouais,
cette richesse
ouais.
est capturée.
Exactement.
Et l'information, c'est la richesse, parce que, ouais. là encore, je cite parfois le patron de la SNCF, qui, pour la première fois, c'était un grand patron d'une société française, qui citait Google comme son concurrent. Hein. Donc, il a bien compris que vendre du train, vendre des billets de train aujourd'hui, c'est plus la SNCF qui va le faire demain, c'est celui qui sait, par exemple, tes habitudes de voyage,
ouais.
qui est capable de te vendre, parce qu'elle sait aussi les offres des autres, elle va être capable de te vendre un service de porte-à-porte, hein, et non pas seulement le train, elle va être capable de donc elle gagne un avantage sur la SNCF, qui du coup, la valeur est transférée de la SNCF vers ouais. celui qui a les data. Donc on a une destruction progressive de tout ce qui a été construit au niveau local, au profit de ces serveurs centraux.
Alors, dernier parallèle, et on va retourner un peu sur la monnaie, ce que tu viens de dire est tout à fait pertinent. Évidemment, moi j'ai un parallèle que j'ai fait, que je n'ai pas encore parlé, donc j'en profite pour le faire dans cette émission-là. C'est la prise de conscience en zone euro par certains économistes, certains politiques, de plus en plus, de la possibilité, voire de la nécessité, de quitter l'euro, par exemple, pour revenir aux monnaies nationales. En fait, pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte que finalement, n'ayant plus la main sur la monnaie, finalement, ils n'ont plus de possibilités. En fait, en termes de politique nationale, ils n'ont plus du tout aucun aspect. Alors, moi, j'ai fait le dit, mais c'est toujours pareil. Quand on va dans un sens, pourquoi on s'arrête à la première itération ? Ce qui est vrai, quand on commence à constater que les États, finalement, se font grignoter, se font bouffer par un truc encore plus centralisé, la tour de Babel, ouais. à un niveau international, sur des règles qu'on n'a pas décidées, etc., et qu'on veut reprendre le contrôle de sa monnaie, pourquoi vous ne poussez pas cette réflexion si c'est vrai pour l'État vis-à-vis de l'euro, c'est vrai des régions vis-à-vis de l'État. Si c'est vrai des régions vis-à-vis de l'État, c'est vrai des départements vis-à-vis des régions.
Jusqu'à l'individu.
Et jusqu'à l'individu.
Bien sûr, bien sûr.
Donc est-ce qu'on
donc,
peut descendre en dessous de l'individu ?
Je
on
crois
peut
que
pas.
T'as résumé donc, exactement...
Oui, mais ils ne le font pas, cette
non,
démarche.
Non, bien entendu. Hein,
ils s'arrêtent au niveau étatique, parce que c'est les niveaux où ils sont eux.
Bien
mais
sûr.
Ils vont pas donc au
ils
bout
s'arrêtent
de, ce qui,
à leur échelon. Voilà.
De ce qui devrait concerner tous les citoyens.
Exactement.
C'est-à-dire ce qui est vrai, le principe de subsidiarité, qu'il soit politique ou économique...
Ils s'arrêtent pas au territoire.
Ils s'arrêtent pas au territoire
que
vous décidez parce que vous êtes censé ou vous croyez nous représenter. Alors vous ne représentez pas.
Ben, on vient de le dire, ils ne nous représentent pas du tout.
Ils ne représentent pas du tout.
Donc effectivement, tu as tout à fait raison. De toute façon, le passage du franc à l'euro, c'était quoi ? C'était une rationalisation des systèmes d'information. En gros, on a la même architecture centralisée, sauf que effectivement, au lieu d'avoir plusieurs SI hein, dans chaque pays, on n'en a plus qu'un. Mais,
ouais.
mais fondamentalement, c'est dans le sens inverse qu'il faut faire le mouvement, comme tu disais, c'est-à-dire aller passer d'une architecture centralisée monopolistique à une alternative pair à pair.
Voilà, c'était donc, en fait le principe, c'est de plus de considérer que c'était pas finalement l'essayer de détendre à tous les individus un même système. C'est d'essayer au contraire d'avoir pour les mêmes individus la généralisation de plusieurs possibilités de système. Voilà.
En tout cas, une autre qui est celle de la décentralisation. Et c'est la complémentarité entre le système centralisé et le système décentralisé qui va faire une économie résiliente, hein, c'est-à-dire sans panne. Parce qu'aujourd'hui, le système centralisé, quand il est en panne, c'est toute l'économie qui est en panne.
Ouais,
hein, c'est ce qu'on observe aujourd'hui.
Et notamment d'éviter à l'avenir, et on va te finir par là, les crises cycliques qui nous tapent quand
bien
même
sûr,
depuis... Parce que le problème, c'est évidemment d'éviter que ces crises se reproduisent pour les gens qui vont nous suivre dans 40 ans. Parce qu'évidemment, ce qui se produit...
Ça succède tous les 10 ans maintenant. Donc,
oui, mais tous les 10 ans.
Ça s'accélère. Hein,
mais les grandes crises, on peut remonter à 71, c'était déjà une première crise,
oui.
Et puis on peut remonter à 29, et sans doute avant 29, les guerres précédentes n'étaient finalement que le résultat
oui.
Des mêmes erreurs économiques.
Avant, c'était des guerres, mais bon, aujourd'hui, on est passé à la crise économique, mais en tout cas, elle est cyclique, comme tu dis, le cycle se raccourcit. Donc, ça montre bien qu'on arrivé au bout de cette phase
question,
historique
ouais.
De la centralisation et qu'il faut passer à un monde, je dirais, multimodal. Hein. On a le modèle centralisé et le modèle décentralisé qui coexistent.
Ouais. Et considéré de façon un peu plus équitable et en respectant peut-être un peu plus ses semblables, que les nouveaux-nés et les nouveaux entrants, ils n'ont pas forcément moins de droits que les gens qui étaient là avant. Enfin, je veux dire, c'est pas premier arrivé, premier servi. Ça marche dans la nature, mais j'avais compris, moi, et ça me semblait assez juste, que pour la grande la grandeur de l'homme, justement, c'était de s'affranchir des lois que lui imposait la nature pour essayer d'établir des choses un peu plus respectueuses, disons.
Une civilisation plus avancée.
Voilà, un peu plus avancée. Merci Pierre pour ce magnifique épisode de Monnaie Libre. C'était
merci
un
Stéphane.
Spécial Bitcoin, et vous voyez qu'on a fini aussi sur des grands principes philosophiques, et vous voyez que aussi le développement de valeurs numériques ne doit pas forcément se faire en disant tout ou rien, ou que ceci ou que cela, mais que tous les paradigmes sont intéressants et qu'il faut les étudier et les choisir soi-même et ne pas suivre quelque chose parce que d'autres vous l'auraient dit à votre place. Voilà, je pense que ça c'est très important. Et ça rejoint de grands principes philosophiques bien connus. Merci Pierre.
Merci Stéphane.
Merci de nous avoir suivis sur cet épisode numéro 41 de Monnaie Libre. Et je vous donne donc rendez-vous pour d'autres épisodes en vous laissant avec notre générique fétiche No More Dreams de Nighter.